les créateurs, créatrices de contenu qui marchent relativement bien, ce qui était mon cas, on se fait plus de thunes que ce dont on a besoin. Et c'est pour ça qu'est arrivé le label de musique. C'était parce que, concrètement, ma boîte, qui est la Ponce Corp, quoi, avait de la trésor et je voulais faire un truc de cette trésor. Et j'avais cet attrait pour la musique que et donc je me suis dit, est-ce qu'on peut pas faire un truc?
Nous, notre but, c'est d'être un label de musique, pas le label de Ponce et pas le label d'un streamer. Et donc, pour l'industrie musicale, on le sent, faut qu'on fasse gaffe à ça. Et nous, ça, on l'a anticipé pour le coup. Dès le début, on s'est dit, oula, attention. Et c'est aussi pour ça qu'on est allé sur du post-rock, sur du post-punk.
Quand on a fait notre soirée de lancement donc au Bataclan, c'était donc en direct sur Twitch sur la chaîne de Ponce. Et il y a quand même, on estime à peu près la moitié des gens, c'était leur premier concert de leur vie.
Alors, 90, comme le temps passe, territoire de Belfort.
Tu sais, 80. Ah oui,
Belfort, dédicace à Last Train, bien sûr.
Et nos amis, absolument.
Oui, oui, tout à fait.
Reçu, y a pas longtemps.
L'épisode 90, moi je suis arrivé au 25.
Ça en fait un OG.
Je suis un giga OG.
Bon, Daz.
Oui, alors voilà, c'était trop
Oui, il faut qu'on présente quand même.
Alors, Floral.
Nos invités. Oui, Floral. Alors, attends, on est avec Ponce.
Oui.
On peut dire Aurélien. Ponce,
Aurélien.
Aurélien. Aurélien, très bien. Donc, on est avec Aurélien.
Mais après, s'il y a des Ponces qui sortent, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Non, c'est pas très, très grave, non.
On est avec JB également.
Oui.
Et enfin, avec Léo. Puisque Aurélien, Léo Lanvert, JB Goubard, eh bien, sont les fondateurs donc, de ce label Floral, Daz.
Je connais.
Tu connais un peu, ouais.
D'ailleurs,
tu connais un peu Aurélien, pense que c'est une figure de Twitch.
Mais tu sais, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai déjà écouté le podcast, etc. Mais okay. Moi, tu sais, je retiens pas les noms, j'écoute et tout. Et genre, je n'ai même pas capté que c'était toi, mec.
Ça veut dire que ma voix.
Tu l'as vu arriver tout à l'heure, t'as dit, ah, mais
non, justement, j'ai capté, je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, j'ai fait. Mais tu sais que c'est, en fait, c'est Daz, mais tu sais qu'on a fait des trucs ensemble et tout. Enfin, genre, c'est un collègue, quoi. Et genre, bah voilà, mec, je.
Nul n'est pas capté en son pays. C'est fou.
C'est fou, je te jure.
En fait, c'est ça le truc. Je pense que Internet, les gens ils s'attendent à te trouver à un endroit,
oui.
Et des fois ça, tu vois, quand tu fais autre chose ils sont pas forcément au courant, donc c'est pour ça que c'est super intéressant de vous recevoir, oui. Parce que Ponce, Twitch, stream, tout ça, gaming, machin, et effectivement musique.
Mais c'est effectivement, c'était une des raisons pour laquelle je voulais vous recevoir, c'est que il y a des gens parmi vous qui proviennent vraiment de l'industrie musicale, du monde de la musique. Vous êtes tous musiciens, globalement, passionnés, tout ça, etc. Mais toi, typiquement, Aurélien, c'était pas ton métier du tout.
Non.
Et il ouais, y a eu cette idée de dire, bah les gars, on y va.
Ouais, non, c'était pas mon métier du tout, la musique. Par contre, j'ai toujours baigné dedans, bah, notamment Léo et moi, on se connaît quand même depuis vraiment très très longtemps. Et on avait même un groupe de musique quand on avait 17 ans ensemble, on a fait nos premiers concerts ensemble et tout. Donc j'ai toujours eu ce pied dans la musique, mais en tant que musicien pour le coup. Et tous mes collègues qui sont les pauvres restés à Paris, bah, eux genre, ils organisaient des choses avec fauchage collectif, etc. Il y avait plein de trucs comme ça. Donc en fait, j'ai toujours eu un pied dans la musique quelque part, mais sans faire rien du tout. Voilà, juste je profitais des concerts, etc.
Mais du coup, tu n'avais pas ce truc de te dire, un peu comme beaucoup de créateurs et créatrices de contenu, de se dire, je fais mon album solo.
Alors,
tu vois,
alors, pas solo, mais par contre...
Mais je fais mon album, tu vois.
Il y a des choses.
Sachant qu'en plus, tu faisais de la musique pour de vrai et tout, tu vois. C'est...
Alors ouais, mais je faisais, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai fait énormément de musique, on va dire, de mes 10 ans à mes 20 ans. On va dire, tu vois, on va schématiser ça. Mais par contre, je fais de la batterie. La batterie, à partir du moment où tu n'habites plus chez les parents, tu l'amènes pas dans ton appart de 18 mètres carrés, quoi. Donc en fait, tu ne joues plus de batterie. C'est mort. À moins que tu aies un groupe, une salle de répète, ce qu'on faisait à Montpellier pendant qu'on était à la fac. Mais sinon, après, bah, ça s'arrête et terminé. Donc en fait, moi, je n'ai pas joué de batterie de mes 20 ans à mes 30 ans, en fait. Je n'ai pas joué de musique réellement, tu vois.
Mais le fait d'en avoir fait quand même pendant 10 piges.
Mais c'est. Pardon.
C'est justement, tu t'es pas dit, ça serait le moyen de reconnecter avec ma passion et tu vois.
Ouais, peut-être. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas fait d'album solo. C'est parce que justement, je fais de la musique du coup. Donc en fait, je suis un peu conscient de. Tu vois ce que je veux dire.
C'est propre limite.
Non, mais excusez-moi, mais je vais pas arriver et caler un album avec 12 tracks de rap avec des. Enfin, c'est un métier quoi.
Pourtant, on a essayé de le faire rapper, hein, vraiment.
Oui, ouais, c'est vrai.
Vraiment essayé.
Tu parles d'un métier. Est-ce que si je reprends juste un petit peu pour les gens qui connaissent moins cette.
Oui.
Daz, effectivement, à l'origine. Toi, JB, tu as rejoint tout petit peu après le projet, si je dis pas de bêtises. En tout cas, Léo et Aurélien se connaissaient très bien déjà avant de te connaître, en tout cas.
Tout à fait.
Toi, Léo, tu es musicien, c'est ton métier. En solo, tu avais un groupe aussi, Princesse Napalm, je crois que ça s'est terminé récemment.
Oui, ça s'est terminé après 10 ans de bons et loyaux services dans les squats et dans les scènes alternatives.
Tu as d'ailleurs monté une association, tu l'as évoqué, Aurélien, Fauchage Collectif, qui t'a permis d'organiser des soirées, d'accompagner des artistes aussi.
Tout à fait, ouais.
Et puis, en parallèle, Ponce, effectivement, qui est devenu une figure effectivement, de Twitch, un des streamers les plus suivis en France.
Mais
ce qui est marrant, c'est que c'est très jeu vidéo, très divertissement. Ce que tu fais, absolument pas lié à la musique.
Complètement.
Et puis il y a un moment où vous décidez de monter un label. JB aussi rejoint très vite l'aventure. D'ailleurs, vous vous connectez via une émission, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, ouais. Internet.
Mais pour le coup, c'est vraiment Léo et JB qui se connectent. Parce que, en fait, moi, à la base, quand j'ai cette idée, j'en parle direct à Léo. Parce que voilà, c'est Léo, c'est le chef de Excel, c'est le chef de... il est trop fort.
Du coup, très fan de Excel.
Ouais, du coup, évidemment, j'en parle à Léo. Léo, ça te chauffe, etc. Mais je me dis, mais on peut pas faire ça à deux, surtout que moi, dans l'opérationnel, je serais pas là, frérot. Genre, moi, je stream tous les jours, je suis pas là, tu vois. Donc, c'est là où. Justement.
Il y a eu effectivement ça. La genèse, je crois, c'est vraiment le podcast sur les droits d'auteur sur ta chaîne.
Vous avez fait une émission pour les droits d'auteur.
Il y a une émission exactement où tu étais. C'était le pont. Comment ça s'appelle déjà
le pot de fleurs.
Le pot de fleurs. Ouais.
J'ai un format podcast qui s'appelle le pot de fleurs où j'ai fait 3 épisodes en 5 ans. Donc c'est vraiment une dingue. Hein, c'est long après.
Ça, si tu fais 3 épisodes et que du coup il y a un label qui sort, c'est quand même.
Ça va.
C'est pas dégueu.
C'est pas mal.
Mais pour le ratio est bon.
T'imagines s'il avait fait 6 épisodes, ce qu'il aurait pu faire.
Mais pour moi, c'est ça un petit peu la genèse de la rencontre de tous les trois, c'est-à-dire avant de faire ce label, on fait ce podcast ensemble et on parle déjà avec cette idée de vulgariser un petit peu les métiers de la musique. Donc on a parlé de droits d'auteur sur Twitch parce que c'était le thème, mais on a parlé de distribution, on a parlé d'accompagnement d'artistes, d'organisation de soirées, etc. Et on s'est dit, il y a cette thématique de donner du savoir aux gens et démystifier un petit peu les métiers de la musique. Et en fait, c'est quoi, peut-être un an après, on s'est dit, montons un label.
Ouais, à peu
c'est
près.
C'est ça, hein,
ça doit être à peu près dans ces eaux-là.
Donc, en fait, toi, JB, t'es aussi à l'origine du label, c'est juste que t'as rejoint un peu après
exactement,
le duo.
En fait, avec Léo, on se connaissait déjà depuis quelques années, mais le moment où on s'est rencontrés vraiment et où c'est aussi un peu la genèse au final, c'est la rencontre entre Fauchage Collectif et le label où j'étais avant, Like Music. En fait, une amie en commun, moi, que j'avais croisée lors de la formation que j'avais faite, elle, 2 ans après, elle la faisait, quoi, et je la croise, et elle me parle de Fauchage, tout ça, et je me dis, ah, mais il y a un lien, et on commence à réfléchir avec Fauchage Collectif et Leuc à faire une soirée au Petit Bain. Et en janvier 2020, donc juste avant en plus le confinement, on décide de faire une soirée avec du live jusqu'à 4h du matin.
Un petit bien qui est juste un lieu où on peut faire des concerts à Paris.
Exactement, et en plus on continue à faire des choses là-bas de temps en temps avec Floral. Et du coup avec Léo, on se parlait par mail et on devait mixer après le groupe La Jungle, groupe de noise belge. Et du coup on se cale dans une cabine pour mixer la veille sur des CDJ et on s'était jamais vu, quoi. Et là on commence au bout de 20 minutes à passer des sons en commun. Et on parle de Twitch, parce que moi, du coup, j'ai un gros passé de gaming, et Ponge connaissait, et moi, je suivais Twitch. Et en fait, direct, on s'est dit, ah, mais il y a trop de trucs en commun, il y a des trucs à faire, quoi. Et ça a commencé par ça. Mais le temps est passé, on s'appelait de temps en temps pour échanger des conseils, lui avec Princesse Napalm et Fauchage, moi avec Leuc, et c'est resté comme ça jusqu'à le deuxième confinement où il y a eu le pot de fleurs et où il y avait ce sujet avec la directive européenne qui était votée. Et moi, en tant que consommateur de créateurs de contenu sur YouTube, tout le monde crachait sur cette loi, les créateurs de contenu, parce qu'il y avait du lobbying de Google. Moi, ayant vraiment cette casquette édition, je me suis dit, ah, ça me fait chier parce que ces créateurs de contenu, je les aime bien.
Mais ils comprennent pas tout à fait ce qui se passe.
En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu dis Google, mais en fait, il est vrai que Google avait envoyé aux youtubeurs et youtubeuses des emails en disant « Ouais, regardez comment on vous met mal dans le monde de la musique, regardez comment ça vous aide pas du tout, vous êtes pas du tout libre d'utiliser des sons et tout, c'est l'enfer. » Alors que le but, c'est quand même protéger les œuvres des artistes. voilà. Mais du coup, c'est ça le truc. Il faut bien comprendre que tous les trois, on est à l'origine du label. Tous les trois. C'est juste que Léo et moi, effectivement, on est avignonnais. Je veux dire, sa mère est prof de poterie. Je prenais des cours de poterie quand j'avais 4 ans.
C'est réel.
C'est vrai. Et donc, voilà, on se connaît depuis super longtemps avec Léo. Donc, Voilà, mais par contre, le label, on l'a créé à trois. On n'a pas été deux à un moment. Quoi.
En tout cas, vous allez être rejoint ensuite, parce qu'il faut les citer quand même, par Augustin Cérès et Cléo Meunier-Marchand, qui sont aussi dans l'équipe du label. Et puis aujourd'hui, bah, vous accompagnez une quinzaine d'artistes à peu près. On ne peut pas tous les citer, mais je pense à Angle Mort et Clignotant, Cemented Minds, Endless Dive. Il y a le projet de Léo aussi, d'ailleurs. Tip Stevens, qui est streamer également à côté, et qui fait aussi de la musique et que vous accompagnez. Violet Indigo, Janto. Bon, il y en a plein, dont aussi Sport. Daz Sport, qui est le groupe de Ponce et Léo. Et alors, vous n'êtes pas seul, mais il y a Aurélien et Léo, entre autres.
C'est tellement récent que c'est même pas encore sur le site de Floral. Voilà.
C'est vrai.
Mais ça va bien.
Bon, qu'il a fini par le faire.
Non, mais tu vois la boucle.
Mais c'est bien, tu l'as fait après. D'accord.
Tranquillement.
Ah, c'est bien. Étape par étape.
Et surtout que je suis que, entre guillemets, que batteur.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un projet à 5. Bon, j'imagine comment en parler, mais du coup, c'est pas. En fait, c'est pas mon projet. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est un groupe, quoi. C'est un groupe dont je fais partie, quoi.
C'est son projet.
Si tu savais.
Non, mais c'est bien. Moi, franchement, je trouve que cette démarche-là que vous avez eue, justement, de... Tu vois, il y avait beaucoup de sujets, tu vois, moi, quand je parlais avec des gens du milieu et tout, c'était vraiment, ouais, si tu peux le faire, fais-le, tu vois. Et moi, j'étais en mode, ouais, mais non, en fait.
Tu veux dire quoi faire si tu peux
genre,
faire?
Genre, si tu peux faire de la musique, bah, vas-y, fais-le. Et toi, t'es là, tu fais... Ben non, tu vois, c'est pas parce que tu peux le faire, sous-entendu, t'as les fonds qui te permettent de le faire, que tu dois infliger un album à des gens, tu vois.
Ouais.
À un moment donné, je trouve que c'est trop facile de se dire, j'ai les moyens d'eux, alors je le fais. Ben non, moi je préférais que t'aies les moyens et que tu fasses en sorte que des gens qui sont talentueux puissent le faire, tu vois.
Ça, c'est une grande question sur la légitimité des créateurs de contenu à faire de la musique, des gens qui viennent d'ailleurs, qui sont des acteurs, par exemple, des choses comme ça, en faire. Bon, je sais pas si c'est l'objet du truc, mais là où t'as raison, c'est d'être passé par le côté aussi accompagné à travers le label des gens,
faire aussi son propre projet musical.
Mais déjà, c'est une démarche plus rare.
Bah ouais.
C'est une démarche aussi, je pense quand même, qui est moins lucrative, pour être honnête. C'est-à-dire qu'en monter un label, ça coûte de l'argent.
Ah oui. Non, elle est pas lucrative. Ouais,
c'est pas pour le fric.
C'est tous les ans, nous on peut parler chiffres, vraiment on s'en fout. Ouais. Je crois que l'an dernier on a perdu 180 000 euros, je crois.
140. Mais c'est déjà pas mal, hein. c'est suffisant. C'est
donc non, il n'y a rien de.
Il n'y a pas les restaurants d'Aurélien et tout en plus.
Non, non,
les
comptes dedans. Mais sur Ponce Corp, ça va.
Si on peut éviter de parler de ça, c'est marrant. mais en vrai, c'est évidemment pas lucratif parce qu'en fait la musique n'est pas c'est pas quelque chose de lucratif, la musique. À la base, tu crées une œuvre. Cette œuvre-là, tu l'as fait jouer, tu l'as fait tourner, tu l'as fait écouter, mais en fait ça ne rapporte pas d'argent de base, c'est juste l'œuvre, elle vit, quoi. Et là où ça rapporte de l'argent, c'est si jamais t'es vraiment une superstar et que là c'est un truc de fou. Donc non, il n'y a rien de lucratif. En fait, l'idée de base, si on veut vraiment parler thunes, l'idée de base, c'est que les créateurs, créatrices de contenu qui marchent relativement bien, ce qui était mon cas, on se fait plus de thunes que ce dont on a besoin dans notre entreprise. On va pas se mentir. Et pourtant, moi, j'ai des gens en CDI avec moi pour bosser avec moi autour du streaming, pour n'avoir que le fait de lancer un live personnellement dans mon métier. Tu vois ce que je veux dire? Genre, voilà. Et en fait, c'est juste qu'au bout d'un moment, bah, honnêtement, la boîte accumulait un peu d'argent. Je voulais pas spécialement le prendre pour moi parce que, en plus, j'allais pour le coup être saigné aussi en impôts et tout pour rien, tu vois, enfin rien en faire de spécial. Et du coup, je réfléchissais à quoi faire, surtout que le streaming, on sait pas combien de temps ça va durer, très honnêtement. Enfin, je veux dire, à tout moment, ça s'arrête, on n'en sait rien. C'est pas quelque chose c'est pas une vision très long-termiste que de se projeter sur Twitch, je trouve, personnellement. Et du coup, je réfléchissais à des choses. Évidemment, vous imaginez bien qu'il y a plein de gens qui venaient me voir en disant « Mais attends, l'immobilier, mon gars, tu vas voir. » Tu vois, genre, ou des gestionnaires de patrimoine qui me disaient « Mais on va fructifier ça, c'est du 5%, tu passes à 10 ensuite. » Mais je comprenais rien. J'étais en mode « Oui, mais le truc, c'est que c'est pas très sexy, tu vois, genre, il se passe pas grand-chose. » Et c'est pour ça qu'est arrivé le label de musique. C'était parce que, concrètement, ma boîte, qui est la Ponce Corp, quoi, avait de la trésor et je voulais faire un truc de cette trésor et j'avais cet attrait pour la musique et donc je me suis dit est-ce qu'on peut pas faire un truc, c'est vraiment ça. Mais par contre ce n'est pas lucratif, c'est justement ce qui permet de dépenser l'argent de mon entreprise, en fait c'est ça.
Et toi sur tes streams, du coup, la communauté que t'as fédérée connaissait cet attrait pour la musique que t'avais? C'était un sujet, ça... Genre c'était naturel pour eux que tu...
Ouais, parce que justement, ça faisait, pour le coup, ça depuis d'à peu près 2019, j'ai ce que j'appelais la Ponce Radio, c'est-à-dire qu'au début de mes lives, j'ai 20 minutes, au lieu de mettre juste un waiting screen où je mets de la musique random et après, yo, en fait, je mettais 20 minutes où je mettais de la musique que je choisissais, je faisais des playlists personnalisées, la Ponce Radio, machin et tout, et je présentais les artistes. Et c'était que des artistes, c'était aussi pour contrer justement le truc de Twitch, où dès que tu mets des artistes qui sont énormes, protégés, eh bien, c'est striké. ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Mais du coup, moi, je voyais avec des artistes souvent plus émergents, et je leur disais, bah, est-ce que ça te dérange que je passe tes sons? Et ils étaient en mode, non, vas-y, let's go. Et du coup, je passais les sons. Et le fait qu'il y ait cette radio, ça a mis beaucoup, beaucoup d'artistes en avant, à mon échelle, hein, tranquille, mais c'était cohérent, du coup, derrière, d'avoir l'existence d'un label qui venait appuyer cette démarche-là.
Ouais, donc il y avait une, ouais, y avait une logique.
Il y avait une continuité.
Ouais. Tu avais déjà fait des sessions d'écoute aussi, voilà, une après-midi où tu voilà, les gens t'envoyaient des sons, t'écoutais, tu partageais.
Ouais, c'est... Si, on parle musique, tu vois. Voilà, on a toujours un peu parlé musique.
De toute façon, et c'est ce qu'on va retrouver dès la première partie de cette émission qu'on va débuter, c'est qu'en fait, vous avez chacun vos compétences assez différentes, vous avez des rôles différents, et on va interroger ça, comment se faire une place aussi en tant que label, quelles sont les compétences nécessaires pour monter un label aujourd'hui, qu'est-ce que, alors, parce que vous n'êtes pas tous issus du sérail, entre guillemets, qu'est-ce que vous avez pu découvrir, à quoi vous avez pu vous heurter, vous n'aviez pas prévu, je suis sûr qu'il y a des trucs, c'est
oui.
obligé.
Oui, moi je pense à plein de trucs, évidemment.
Comment on se forme aussi, parce que je sais que par exemple JB est passé par une formation, bref, parlez un peu de tout ça, Daz. Et pour commencer, juste un peu revenir sur ce côté, alors la genèse, on l'a expliqué, d'où sort ce projet, mais ce côté culture internet, effectivement, qui est vraiment à la base du projet, parce que on a compris que pour communiquer autour du label, vous passez aussi beaucoup par l'image de quelqu'un qui est déjà installé dans l'univers du web, dans l'univers d'internet, en l'occurrence donc avec ta chaîne, avec ta chaîne Twitch, mais qui, comme Daz le relevait, n'était pas complètement associé à la musique.
Tout à fait. Ah, mais il y a une grosse part de mon audience qui s'en fout royalement de mon label. Et je les comprends. Enfin, ils font ce qu'ils veulent, tu vois.
Pourquoi d'ailleurs, t'aurais pu te dire... Alors, j'ai bien compris qu'il y avait cette histoire d'investir de l'argent, etc. Et de dire, autant qu'elle soit utile, que cet argent soit utile. T'aurais pu faire du contenu. C'est-à-dire faire des émissions autour de la musique. T'aurais pu mettre en avant des gens. T'aurais pu, à travers des émissions, tu vois, par exemple, faire des petits lives, j'en sais rien, musicaux, des choses comme ça. Pourquoi un label en tant que tel, alors que c'est une galère, en vrai, la gestion des droits, l'accompagner, machin, c'est une galère, un label.
Mais parce qu'il y avait quand même ce truc dont on avait déjà parlé, où moi, des fois, j'écoute des artistes et je suis en mode, mais tout le monde s'en fout de cet artiste, genre. C'est trop stylé ce que cette personne fait, genre vous voulez pas écouter, je sais pas, soyez curieux, curieuse et tout. Donc il y avait quand même ce truc là. Et puis ensuite aussi moi j'ai ce, bon ça c'est un peu personnel, mais je n'ai pas spécialement envie de développer mon contenu sur Twitch. C'est-à-dire que je suis heureux avec ce que je fais, mon gaming très chill, je suis tranquille, j'ai pas envie d'être en mode ouais émission machin et tout. Et si jamais finalement j'ai envie de faire une émission ou autre, bah, je préfère que ce soit fait dans le cadre... aussi d'un label qui permet de structurer tout ça et de rendre le truc encore plus cohérent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc je préférais créer une structure dans un premier temps, ce qui est le cas, et après réfléchir. Effectivement, qui nous dit peut-être que dans 5 ans, il y aura des studios Floral Records, on fera des lives voilà, avec des artistes Floral Records et pas que, etc. Peut-être. Mais voilà, je pense que la structure était plus importante à la base.
Vous, de votre côté, JB et Léo, alors bon, il y avait cette histoire d'amitié, de rencontre, etc., qui est toujours à l'origine d'un projet en général. Mais cette forme de stratégie, ou en tout cas, ça s'est fait comme ça, parce qu'il y avait déjà un canal de diffusion qui vous permettait de toucher des gens. Tout de suite, vous êtes dit, c'est une aubaine pour moi, ou vous êtes dit aussi, est-ce que c'est la bonne stratégie ? Est-ce qu'il y a eu cette question au début ?
Oui, forcément, on se pose un peu la question. Moi, j'ai un exemple en tête, par exemple, pour Cemented Minds, qui est un groupe de post-punk donc, qui est chez Floral maintenant. Et à l'époque, on écoutait, tu m'avais envoyé un message en disant « Mais c'est incroyable, la musique qu'elle fait, elle est trop bien, mais ils ne gèrent pas leur Insta, ils ne gèrent pas leur contenu. Genre, comment on peut faire pour les pousser ?» Et tu as souvent eu ce regard que je trouve intéressant de comment mieux communiquer sur un projet.
Ouais.
Et je pense, au-delà de ton canal Twitch, etc., c'est aussi l'angle de vue sur comment tu présentes un projet, comment tu communiques dessus. Et Cemented Minds, aujourd'hui, voilà, ils arrivent petit à petit à faire des photos promo sympathiques sur leur Insta. On les ravit, tu vois. Et donc, je pense que ça a été ça aussi le déclic, mais effectivement, oui, il y a le canal effectivement Ponce à travers les radios florales, mais on a toujours dit aussi le but, c'est que ça soit pas étiqueté partout, c'est le label de Ponce, point. L'idée, c'est de proposer quelque chose, une vision un peu plus large. Et voilà.
Moi, j'avais vraiment, déjà, de base, je viens des médias, donc j'en parlais un peu en off, mais je viens du milieu de la radio, j'ai été dans des grosses radios comme des plus petites, et ce côté vraiment recherche de musique, j'étais programmateur sur des radios associatives et tout, moi, ça m'a toujours porté, j'ai toujours eu moins d'appétence, on va dire, pour la musique dite pop, mais j'aime bien la musique de niche et tout, et j'ai toujours eu ce truc-là. Et donc, avec Luck Music, l'ancien label où j'étais, on défendait vraiment des trucs noise, des trucs néo-jazz et tout, et le label existe toujours et continue à faire ça.
Il y avait d'ailleurs, je te coupe, pardon, mais le groupe Lysistrata, dont on a déjà parlé une fois dans cette émission, que j'adore.
Tout à fait, Lysistrata, justement, moi, dans le cadre de l'affaire à rock, je les avais interviewés plein de fois, c'est un groupe que je suis depuis leur tout début, et au point où on est devenus potes, quoi. Et voilà, c'était cette scène-là que je défendais, et connaissant un peu l'industrie, je voyais les inégalités énormes de revenus, de la précarité et tout. Et c'est vrai que moi, c'était en tâche de fond dans ma tête. J'ai fait 6 ans avec ce label en Belgique et on a galéré plus que tout. On commence à avoir des petits trucs qui se débloquaient, notamment un groupe que je manage toujours qui joue à Eurosonic, projet super, enfin, un festival très important dans la musique indé. Et là, il y a le Covid. Donc en plus, bah, voilà, au bout d'un moment, il y avait un truc, ce truc de lassitude. Et c'est vrai que cette opportunité était super intéressante. Et c'est bête, mais il y avait un peu plus de thunes. En Wallonie, il n'y a quasiment pas d'aide, il n'y avait pas d'argent. Et au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de vraiment faire que du bricolage, de sacrifier mon quotidien pour développer ça, pour au final que ça galère toujours. Et c'est vrai que moi, il y avait cet aspect-là et l'aspect média. Qui, donc, venant des médias, bah, je trouvais ça trop intéressant.
Sens pour toi.
Ça, c'est trop bien, quoi.
Et aussi, pourquoi c'est pas le label de Ponce et qu'on veut pas être étiqueté comme ça et que c'est pas le cas, c'est parce que tu t'arrives pas non plus dans une industrie aussi colossale que la musique avec tes énormes sabots en disant moi, parce que en gros, j'ai des followers. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Genre, ça n'a vraiment aucun sens.
Mais c'est, ouais, alors. Je te coupe parce que c'est marrant, mais d'un autre côté, j'entends aussi beaucoup d'artistes dire que maintenant, et globalement de gens qui s'intéressent au milieu de la musique, dire que maintenant, pour être signé en major, faut limite avoir ton public avant même d'être signé. Alors qu'avant, tu signais en maison de disques pour qu'ils te développent, tu vois. Et là, maintenant, les gens te disent, bah ouais, mais en fait, les maisons de disques, elles te donnent l'heure que si elles voient que t'as des followers ou que t'as un petit buzz sur internet, quelque chose.
Pour monter un label aujourd'hui, il faut avoir 800 000 followers.
Bah, voilà. Non, mais en vrai, t'as raison. C'est-à-dire que clairement, une artiste qui a, je dis des chiffres au hasard, on s'en fout, 300 000 followers sur Insta, ça va être un peu plus sexy que quelqu'un qui n'a pas de Insta, par exemple. Ouais. Ça existe aussi. Mm-hmm. Ça, c'est évident. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus griller d'étapes. Tu vois, genre, souvent, quand tu as des artistes qui d'un coup percent, d'un point de vue du grand public, bah en fait, le truc, c'est que la musique, ça fait des années qu'ils connaissent ce groupe. Ça fait des années que des majors sont en mode « Ah, ça nous intéresse, ah, tu sais, qu'ils s'approchent petit à petit. » Alors qu'en fait, ils viennent pas de nulle part, quoi. Donc voilà. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que tu peux avoir autant de followers que tu veux. La musique, tu peux pas forcer les gens d'écouter une musique.
Alors là, tu pointes du doigt quelque chose extrêmement intéressant, qui est la question aussi des publics. Est-ce que ça se transvase des publics, par exemple ? Et ça, je pense que c'est un truc essentiel parce que même à l'échelle seulement d'un média, tu sais par exemple que si t'es suivi sur Instagram, ça veut pas dire que ces mêmes gens-là vont aller sur ton YouTube.
Bien sûr.
Ou que si t'es une radio, ça ne marche pas comme ça. Alors j'imagine que quand on se dit, bon, Aurélien est suivi par des centaines de milliers de gens, est-ce que ces gens-là réellement vont venir écouter les artistes qu'on défend avec le label ?
Tu transformes pas 100%, mais c'est comme les scammers au téléphone.
Tu dis, bon, je vais bien en avoir un.
Bah oui, voilà. S'il y en a un qui répond, il paye pour tous les autres.
Ouais, mais là, il y a le côté artistique qui rentre en jeu et donc les sensibilités qui sont particulières à chacune et chacun. Et en vrai, ça joue de fou. C'est-à-dire que tu peux être Squeezie, une des personnes les plus suivies de l'internet francophone, présenter un artiste, une artiste. En vrai, si les gens aiment pas trop, il se passe rien de spécial. Et on le voit d'ailleurs dans la musique, ça c'est un truc que j'ai découvert depuis qu'il y a ce label et tout, c'est que dans la musique, des fois, la presse s'accapare un projet, le met en avant, mais pendant des semaines et des semaines, et en parle, le public en a rien à foutre. Il se passe rien au niveau métriques, tu vois, des streams ou même vente de merch ou quoi. Il se passe rien, tout le monde s'en branle. Ouais. Donc, tu vois,
Donc, le matraquage ne fonctionne pas autant qu'on aurait pu le croire.
Ça dépend quand même. Je pense que c'est que du cas par cas, mais il y a aussi un autre contre-exemple, c'est il y a des labels comme Born Bad par exemple qui sont méga reconnus, mais ils touchent un tout petit peu un petit public, mais le modèle économique il est là parce que c'est un public qui va acheter chaque
engagé,
jour. Et il y a tellement de labels en France, enfin moi je viens plus de ce milieu-là, des petits labels indés qui existent depuis 30 ans et qui ont leur public. J'ai eu la chance de côtoyer un peu Philippe Coudert qui a donc créé Vicious Circle, qui est peut-être un des plus gros labels vraiment indés en France, qui a fait Lizzy Strata notamment, Slift qui a cartonné après et tout. Et vraiment, ben, c'est trop intéressant aussi de voir ce monde-là parce que la majorité du public ne connaît pas. Sur les réseaux, ça pèse que dalle. Par contre, le modèle économique, c'est stable.
Oui, puis ça tourne, les concerts sont remplis. Enfin,
En live, ça cartonne.
En fait, il y a réellement un monde entre les réseaux sociaux et le réel. Mais genre, moi je trouve qu'il y a un monde. Et d'ailleurs, on en parlait. Moi, il y a des artistes que j'adore, des artistes internationaux, par exemple, internationaux. Enfin, là, Al, parce que, bref, c'était une artiste féminine, on s'en fout. et que j'étais allé voir à La Cigale. Du coup, elle faisait sa seule date de Paris, c'était à La Cigale.
Les Étoiles.
Non, là je parle de Lolo Zouaï.
Ah oui,
exactement. Zouaï. Du coup, je vais voir. Moi, j'adore. Je suis un grand fan de Lolo Zouaï. Je vais la voir à La Cigale. Et en fait, ce n'est pas complet. C'est sa seule date en France. Lolo Zouaï est écouté par 2 millions de personnes sur Spotify tous les mois, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis, mais what the fuck? Alors que nous, on a organisé une cigale pour un artiste avec qui on travaille chez Floral Records, qui est Tip Stevens. T'en as parlé tout à l'heure. On a rempli La Cigale, quoi. Mm. Et pourtant, Tip Stevens, c'est infiniment moins suivi sur les réseaux que Lolo Zouaï. Enfin, c'est incomparable. Je veux dire, c'est deux mondes.
Vous faites dans quelques mois un Olympia avec Tip Stevens.
Tout à fait. Ouais.
Tout à fait. mais tu vois, du coup, pour moi, il y a un vrai monde.
Il n'y a pas de transformation.
Il y a un monde entre qui écoute. Est-ce que les gens écoutent beaucoup? Parce que s'il y a ça, il y a des fois, il y a des artistes, on les adore, on les écoute une fois par mois. Hein. Ouais. Sauf qu'il y a des gens, il y a des artistes, on les aime pas tant que ça, on les écoute quasiment tous les jours pour dormir. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Ensuite, est-ce que tu te déplaces en concert? Est-ce que c'est un public qui se déplace en concert? Est-ce que les médias servent à ça et tout?
Et ça, c'est quelque chose que vraiment, tu n'avais pas spécialement conscientisé avant de rentrer dans le game, ou c'est un truc que tu avais en tête quand même de se dire, c'est pas parce que t'es big sur internet sur un truc que ça va forcément marcher si tu t'essayes autre chose?
Oui et non. En gros, je me disais, quoi qu'il arrive, il y a quand même une base de personnes qui auront une oreille attentive, tu vois. Si ça leur plaît pas, ça leur plaît pas. Ça, j'en étais quand même un peu conscient. Tu vois, genre ça, quand même, tu peux pas forcer les gens à écouter des trucs.
On parle d'influence, tu vois.
Tu voulais réagir, Léo?
Ouais, en termes de transformation, il y a, je pense, quelque chose qui était assez intéressant. Quand on a fait notre soirée de lancement donc au Bataclan, c'était donc en direct sur Twitch sur la chaîne de Ponce, et il y a quand même, on estime à peu près la moitié des gens, c'était leur premier concert de leur vie.
Ouais. Voilà. Sachant que vous avez réuni quoi, 1300, 1400 personnes?
Ouais, c'est un peu moins, 1200 parce qu'on avait besoin de place pour la régie vidéo, justement.
Donc c'est des gens qui te suivaient.
Ouais.
Et qui se sont déplacés,
ouais,
sans trop savoir à quoi s'attendre, parce que
le label était à peine lancé. Enfin, ouais.
C'était la soirée.
Personne ne savait qu'il allait y avoir un label. Ouais. En fait, on a organisé une soirée au Bataclan avec trois groupes qui ont leur rayonnement, mais qui a un rayonnement qui est relativement moindre, tu vois. Et on a rempli le Bataclan en 2-3 semaines. Et la moitié, c'était leur premier concert de leur vie. Mais il y avait cet attrait quand même. Je participe à une émission. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je vais à un live Twitch, parce que c'était retransmis sur Twitch. Il y avait quand même
un défi Donation Goal du The Event.
Voilà,
donc il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose communautaire dans tous les cas.
Je crois en moyenne 20 000 personnes qui regardaient ce live, ce concert en direct sur Twitch.
Mais trois groupes live et très peu connus de rock.
Enfin, en plus, et de rock, oui.
Vraiment à contre-sens de ce qui se passe actuellement.
Et après, on pourra d'ailleurs écouter quelques extraits des groupes que vous accompagnez. On pourra commencer avec un, puis au fur et à mesure de l'émission, en écouter d'autres. Parce que c'est intéressant, cette idée, même au-delà de la musique, de se dire, la frontière qu'on imagine parfois entre Internet et IRL, in real life, ce qui se passe réellement, elle est plus floue qu'on ne le pense, en réalité. Ça fait longtemps, d'ailleurs. Hein. Et effectivement, on est capable de mobiliser des gens qui ont créé une communauté sur Internet dans la vie réelle.
Dans le réel, ouais.
Et est-ce que vous avez d'autres exemples, d'ailleurs, sur Twitch, pour nous donner une idée, sur Twitch ou ailleurs, d'ailleurs, globalement, des Français qui se disent, moi, je suis capable de créer un événement où des centaines de gens, voire des milliers, se déplacer.
Il y en a plein.
C'est vrai. Tu peux donner quelques exemples?
Il y a évidemment le GP Explorer de Squeezie. Voilà. C'est une course de F4 entre youtubeurs et youtubeuses. Voilà.
Ils se mettent dans des voitures et ça, ça fait bouger des milliers de gens.
Oui, il y avait 35 000 personnes en physique, je crois.
En physique.
C'était sur le circuit du Mans.
Circuit du Mans. Ouais. En plus de ça, il y a du storytelling autour de leur préparation. C'est-à-dire que tu apprends pas comme ça à conduire une F4. Donc, du coup, il y a des vidéos autour de ça. Ouais, c'est les plus gros youtubeurs français. Donc, si tu veux, oui, il y a des gens qui se déplacent. Mais parce qu'encore une fois, il y a ce truc communautaire. Pour le coup, si tu sais que si tu es fan d'un youtubeur et que cette personne annonce un événement pas très loin de chez toi, pas très cher, et que tu sais que tu vas pouvoir le voir de tes yeux, en vrai, l'influence. Là, on parlait de l'influence, là, ça marche, bien sûr. Et c'est pour ça, je pense que le Bataclan aussi, ça avait très bien marché. C'est que c'était c'était en live, c'était sur Twitch. Les gens le savaient, ils allaient participer à ce truc-là. Et évidemment, j'étais là, il y avait d'autres personnes, etc. Donc ouais, il y en a. Franchement, on peut en citer plein parce qu'il y en a.
Sur la musique, plus spécifiquement, est-ce qu'il y a des exemples? Alors, vous avez fait ce Bataclan.
The Event, le Zénith.
Ouais, The Event.
Mais du coup, c'est pas le meilleur exemple parce que c'est pas complet. Enfin, tu vois, c'est un peu compliqué.
J'ai un exemple, il y a eu le Popcorn Festival.
Ouais, j'allais dire ça. Ouais.
Vas-y, Léo. C'était quoi le Popcorn Festival?
Je pense que t'en parleras beaucoup mieux que moi puisque tu y étais, toi, finalement, non?
J'étais, tout à fait. En fait, en gros, Popcorn, c'était une hebdo qui a eu lieu pendant 4-5 ans sur Twitch tous les mardis soirs, une émission présentée par Domingo, un des plus gros streamers français, et donc on se retrouvait à 4 sur le plateau et on discutait de tout de rien, grosso modo.
Pas spécifiquement de musique.
Ah, certainement pas de musique, genre c'était assez rare même qu'on parle de musique au final, quand j'y repense, même s'il y avait des fois des artistes qui venaient, mais bref. Et du coup en 2022, juin 2022, il y a le Popcorn Festival, c'est qu'en gros il va y avoir l'émission Popcorn au milieu d'un festival de musique, le Popcorn Festival, ça a eu lieu dans la ville de Moncu, parce que ça a été voté par les gens et tout, donc c'était dans la ville de Moncu. Et donc là, alors si je dis pas de bêtises, je crois que la jauge c'était 4000 il me semble, 3008,
4000. Je crois 4000. Que c'est 4000.
Ouais, je crois, quelque chose comme ça. Évidemment, c'était complet, et là, les gens étaient à fond. Mais t'avais aussi des artistes. Donc déjà, il y avait plein de streamers et streameuses sur place qui allaient faire l'émission, etc., etc. Il y avait cet aspect, on est ensemble. Et en plus de ça, il y avait des artistes quand même comme genre PLK. Ouais. Tu vois, c'est quand même des gros artistes.
Donc il y avait des prestations musicales live.
Tout à fait. Il y avait, c'était un festival de musique qui était juste débuté par l'émission. Ouais. À la base, c'était l'émission commençait à 18h, ou je sais plus, 17h, bref. Elle se terminait à 19-20h, et à partir de là, c'est concert jusqu'à 4h du mat.
Un festival d'un jour.
Festival d'un jour, tout à fait.
Qui est normalement un festival, c'est sur plusieurs jours. Mais...
Oui. Oui. Toi, par exemple, JB, tu avais conscience avant de monter. Donc, on a dit le label, c'est autour de 2022. Hein, que vous, enfin, c'est même en 2022 que vous le lancez. C'était en septembre, là, cette affaire au Bataclan.
Oui.
Tu avais conscience que sur Twitch et globalement à travers Internet, on pouvait mobiliser des gens, créer des événements musicaux. Et toi qui viens vraiment de l'industrie musicale, tu disais que tu as managé des groupes, tu as accompagné un label, etc. Que c'était un levier pour la musique d'aujourd'hui?
Moi, c'est ma culture aussi, en fait, comme je disais tout à l'heure. J'ai joué 10 ans à WoW, je regardais Auré, j'ai découvert aussi Event 2020, je pense, je t'ai découvert. Et oui, mais
j'étais un
peu seul à le penser.
Ah, oui. Ouais.
Et il y a une rencontre qui a été importante, l'ancien directeur artistique de Dour, Alex Stevens, qui, lui, en fait, avait vraiment cette notion de communauté. Il était aussi à Liège et on se croisait et on a commencé à discuter de ça, quoi. Moi, je voyais le truc se faire et lui il me disait le futur c'est la communauté. Il avait essayé de créer la communauté de Dour avec un cri de ralliement, tout ça. Et c'est cet aspect communautaire où, ouais, je pense qu'il y avait un truc à faire. Après, le côté internet et la réalité, c'était un peu à voir. J'avais suivi un peu l'histoire avec Popcorn et tout. Et donc, oui, je pense qu'il y avait ce sentiment-là d'avoir envie d'essayer. Est-ce que ça va marcher sur le long terme et tout? Ça, c'est une autre question. On le voit avec... il y a eu beaucoup d'artistes. Les premiers concerts, c'est facile à remplir. Mais de réussir à remplir pendant 20 ans, là, pour l'instant, personne n'a réussi.
Parce que, si je comprends bien de ce que tu nous dis, c'est que là, ce qu'on présente comme une tendance, entre guillemets, des événements qu'on arrive à faire physiquement, à bouger des gens, etc., y compris autour de la musique, c'est pas forcément encore une norme dans l'industrie, c'est pas encore un levier que tout le monde utilise, etc.
Ils essaient, mais ils comprennent pas trop. On a déjà été sollicité, surtout Auré, quoi, qui il est contacté, je te laisserai en parler, je pense que ça sera intéressant quand même de voir comment t'es approché, mais il y a des fois des gros artistes ou des grosses boîtes de tournée qui vont contacter la Ponce Corp, et en fait... ils captent pas du tout comment aborder la Ponce Corp, quoi.
Non, parce qu'en fait, il faut bien avoir en tête aussi que l'engagement du public vis-à-vis de tout ce qui se passe sur Internet, notamment sur Twitch et YouTube, en France, par rapport à la population du pays, c'est une anomalie, en fait.
Oui.
C'est-à-dire que le public français, c'est un truc de fou qui se passe et qui n'est pas forcément réplicable en Italie ou en Espagne.
Tu veux dire que le nombre, par rapport à la population, c'est le nombre de Français qui consomment Twitch est très important.
C'est hallucinant, en fait.
Je pense que proportionnellement, on est la communauté la plus bouillante en tout point. Mais après ça, en fait, parce que moi aussi, je me faisais la réflexion, je me disais, mais attends, mais le Twitch français, c'est fou. Et en vrai, ça l'est, c'est fou. Et en fait, c'est un rapport avec, globalement, notre culture francophone qui a toujours été très en avance sur les médias. En fait, c'est pas nouveau. Et si tu regardes, tu vois, genre, je regarde pas beaucoup la télé, mais si tu regardes la télé en France et tu la regardes, genre, en Italie ou en Allemagne, en Italie, t'as l'impression que t'es dans les années 80, la télé. Enfin, c'est tu vois. Et en France, on a toujours eu un peu ce truc de, on fait les choses bien, on produit, on monte le truc, on fait. Et du coup, ça s'est passé sur Twitch. Et des gens moteurs, comme Domingo qui a créé Popcorn ou Zerator qui fait plein d'événements ou quoi, il y a des gens qui ont été très moteurs dans ce truc-là et qui ont fait qu'aujourd'hui, Twitch, t'as raison. Je pense que c'est la communauté, proportionnellement, qui est la plus bouillante.
Parce que tu vois qu'il y a une rivalité notamment avec l'Espagne et le Twitch game espagnol. Je veux dire, les Espagnols, quand ils allument leur cam et qu'ils parlent, potentiellement ils touchent toute l'Amérique du Sud, les mecs de l'Amérique centrale, tu vois.
C'est colossal.
C'est des millions de fans dans le monde.
Tu vois, donc tu te dis, la France, les pays francophones, on a un petit bout du Canada, on a effectivement la Belgique et la Suisse, et puis on a l'Afrique, tu vois. Et je pense que c'est le défi justement de réussir aussi à marcher auprès des pays francophones en Afrique, tu vois. Mais tu te dis, quand tu regardes les métriques, tu te dis, ça n'a pas de putain de logique, en
non,
fait,
ça a pas
c'est
de sens.
Ouf.
Ouais, ça
c'est
a pas
ouf.
De sens.
Et alors, tu, JB évoquait les sollicitations que tu peux avoir, des sollicitations dans le monde de la musique qui pourraient un peu nous donner une idée de l'industrie, comment elle cherche à s'emparer, entre guillemets, du phénomène alors, Internet, de gens comme toi de...
Moi, je dirais pas s'emparer, j'ai pas eu cette sensation. Moi, j'ai eu plus la sensation de...
Pardon, en tout cas, oui, ouais, collaborer, ouais, en tout cas.
De curiosité.
Colonisation. voilà, c'est le meilleur terme.
Ah, enfin, voilà. Tout simplement. Non, en vrai, je ressens plus de la curiosité et aussi de la méconnaissance. Mais ça, je peux pas leur en vouloir. C'est une niche. En fait, ça reste une niche Twitch. Enfin, c'est une grosse niche aujourd'hui. C'est une très grosse niche, mais ça reste une niche. Et si t'es pas dedans, tu comprends rien. Et je le comprends qu'ils comprennent rien, tu vois. Donc, oui, par exemple, tout récemment, on peut dire des noms, on s'en fiche.
Oui, enfin,
tu vois, par exemple, il y a eu un gros concert de Justice à Paris récemment. Et en fait, 4 jours avant le concert, je reçois un message de la prod des tourneurs. Et ils me disent ouais, ça te dit de venir live les backstage et tout du concert.
4 jours avant.
4 jours avant. C'est en fait, il faut bien se rendre compte qu'un live Twitch, c'est pas genre.
Salut les gars.
Ouais, voilà, c'est pas grave.
Mais oui, ils sont déjà.
Déjà premier truc idiot.
Un PC, une webcam, c'est parti.
Déjà premier truc idiot. Il faut avoir une connexion stable et haute.
5G là. Ouais.
Tu vois ce que je veux dire. Et rien que ça, bah en fait, tu l'as. Même là, je suis même pas sûr qu'on puisse streamer avec le téléphone. J'en sais rien, tu vois. Mais assez rapidement, en fait, t'as des contraintes techniques qui sont colossales. Et surtout aussi, le live, même, c'est du direct, c'est de l'instantané, c'est. Mais par contre, tu peux pas ne pas préparer, être en YOLO, c'est un peu nul. C'est nul. Je vais pas juste prendre ma cam, mon téléphone, être en
voilà, backstage.
Là, on est là, ouais, ouais, voilà. Et c'est quoi ça? Je sais pas. C'était qui? Ok, je peux rentrer. Enfin, ouais. Tu vois, c'est nul. Genre, ouais, et du coup, il y a un peu ce truc-là où ouais, je reçois des propositions comme ça qui sont. En fait, je suis triste de ne pas avoir de contre-propositions intéressantes parce que les délais sont trop courts, parce que je vois qu'il y a trop à faire. Enfin, ça va être. C'est une prod, quoi. C'est un boulot. Et du coup, ça me rend un peu triste. J'aimerais bien avoir des solutions à proposer justement au monde de la musique pour faire ce pont avec Twitch, parce que pour le moment, ben en fait
c'est incroyable en plus, parce que s'il y a bien des gens qui sont au courant des contraintes techniques, normalement c'est les gars qui bossent, tu vois, les tourneurs, je veux dire, les mecs ils savent quoi. Tu dis pas je vais prendre un mec avec une cam, pas d'éclairage, pas de micro, et puis il va se balader à la zob et il va poser des questions à des gens, enfin tu vois, tu te dis mais les gars c'est...
Je pense qu'ils se rendent pas compte, mais parce qu'encore une fois c'est une niche. Et ils se rendent pas compte de tout le travail derrière et toutes les équipes. C'est-à-dire que
y a pas un peu de mépris quand même.
Ça.
Moi, je dirais peut-être.
J'y vais.
Peut-être un peu. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de la méconnaissance. Je pense qu'on, même déjà entre nous trois, on a mis du temps à comprendre les réalités du stream, de Twitch, etc.
Et
les réalités de la musique. Et toujours. Et c'est vrai que, bah, typiquement, je reviens encore une fois sur ce Bataclan où nos groupes et les tourneurs avec qui on bossait voulaient qu'il y ait plein de médias, plein de presse, etc. On leur a dit très bien. Mais par contre, on veut pas non plus qu'il y ait 40 appareils photo au premier rang parce que c'est un live Twitch. Et du coup, il y a eu un peu un moment d'incompréhension. Ah, mais vous voulez pas qu'il y ait des médias à cet événement. Donc pourquoi vous boudez les médias? Et donc voilà, il y a tout ce temps-là de
défiance. Peut-être pas du mépris, mais en tout cas un petit peu de défiance.
Ouais, peut-être de comprendre les codes de chaque milieu, je dirais. Ouais.
Je reprends totalement la suite, parce que c'est une question de code, et je pense que l'industrie, depuis 5-10 ans, ils ont capté ce qu'était l'influence sur Internet. Mais ils n'ont pas capté ce qu'était l'influence sur Twitch. Parce que quand tu parles à un influenceur qui est sur Instagram ou TikTok, il y a des différences, mais... Voilà, c'est à peu près pareil. Sur Twitch, ça n'a rien à voir. Mais vraiment...
Compris vis-à-vis de YouTube, qui historiquement, il y a déjà beaucoup de liens.
Il n'y a aucun rapport entre YouTube et Twitch. Et je le dis vraiment. C'est-à-dire que sur YouTube, ce sont des vidéastes. Ouais. Sur Twitch, on est des animateurs. Moi, je le vois un peu comme ça, tu vois. Et moi, je serais incapable de faire des vidéos YouTube. Et en plus de ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Et à l'inverse, il y a plein de YouTubeurs, ça ne les intéresse pas du tout. Et où ils seraient incapables de faire des live Twitch. C'est deux médias ultra différents, aux codes différents, tout est différent.
C'est étonnant parce que... Alors, pardon, tu voulais peut-être terminer, JB, sur...
En gros, moi, ce qui m'a plu, et je pense que je me serais pas lancé si t'étais un influenceur TikTok, c'est que ça me fait penser à la radio Twitch.
Il y a ce truc de direct,
et moi, venant de ce milieu, j'avais l'impression d'être presque un peu chez moi, quoi. Et ça me plaisait. Et je pense que c'est ça que l'industrie capte pas encore.
Et à chaque fois qu'il capte... En fait, à chaque fois que tu fais rentrer, par exemple, des mecs de prod télé dans des émissions, ils veulent tout cadrer avec des runners à la milliseconde.
Tu sais que j'ai une anecdote de fou là-dessus.
Est-ce vas-y,
que
balance.
Parce que du coup, moi, je suis passé par la web TV Le Stream.
Ah bah oui, bah, voilà, je connais bien sûr.
C'était la web TV de Webedia, qui est un mastodonte du web en France et dans le monde
qui
aussi.
Qui a par exemple jeuxvideo.com,
Allociné. Exactement. Voilà. 300 grammes, non.
750.
Je me suis trompé, excuse-moi. Eh bien, donc il y avait cette web TV qui était Le Stream. En 2019, j'étais animateur dans cette web TV. Et ouais, c'est ça. Et ils ont remanié. Ils ont remanié et ils ont invité des darons de la télé pour essayer justement de nous faire des programmes clean, etc. Mais tu vois, des médias traditionnels sont image. Ouais. Et en fait, c'était une catastrophe.
Ça ne marchait pas.
Ça ne marchait pas parce que ce n'est pas les mêmes temporalités, c'est pas les mêmes manières de voir les choses, c'est pas les mêmes manières d'aborder les choses.
On pourrait dire qu'il y a un savoir-faire aussi.
Mais en fait, non.
De cadrage, de technique, etc.
Oui, mais alors il y a ce truc-là. Ça c'est vrai, ouais, mais moi je l'ai vu. Tu parles du live en fait.
Alors je parlais. Alors en vrai, sache que même pas. Non, sache que je parlais même pas du live. Le live pour moi c'est même encore une
c'est
autre.
Encore
erreur.
Un autre truc. Ouais, okay.
Okay. Non, je parlais vraiment de le stream. Il y a une restructuration le stream courant 2019 où ils ont fait venir des gros noms de la télé. Et dedans il y avait tout. Il y avait des gens qui essayaient de comprendre ce qui se passait sur Twitch et des gens qui en avaient strictement rien à foutre en disant faut faire ça, ça marche, on fait ça depuis 40 ans, tu vas pas me l'apprendre.
Ouais, bah, voilà,
et nous on était en mode. Mais en fait, c'est pas le même média. Donc, je sais pas pourquoi tu parles de la télé. Ça
mais
n'a
si, c'est
rapport.
De la vidéo. Il y a des caméras et des lumières.
C'est
pareil. Donc, ça doit être pareil.
Et tu
fait,
vois,
non.
Tu parles de l'expertise. L'expertise technique, cadrage, etc. Mais même ça, selon moi, Twitch, il y a un truc unique.
Codes, okay.
Parce que, ouais, c'est pas les mêmes codes. Et en plus de ça, tu es soumis au bridage issu de la connexion. Et donc, du coup, en fait, tu dois composer avec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire le débit que tu envoies fait que tu ne peux pas envoyer la plus grosse image du monde parce qu'en fait sinon la qualité sera downgrade.
D'ailleurs, typiquement vient seulement d'arriver, je crois en plus en mode test, la 4K sur Twitch, alors que c'est limité à du 1080.
C'est une catastrophe. 1080. C'est une catastrophe. Moi, je trouve ça catastrophique parce que déjà que au niveau écologique, le streaming c'est vraiment une catastrophe. Bon après tout ce qui est numérique, c'est cata, tu vois. Mais Twitch, voilà, c'est cata de ouf. Et en plus, là, tu me parles de la 4K. Mais enfin, frère, déjà, qui a un écran 4K? Non, qui a une connexion pour regarder de la 4K?
Il y a des gens en stream, les mecs, ils t'expliquent. Tu sais, souvent, on me dit, ouais, c'est quoi la musique qui passe? Tu vois, je fais, putain, les gars, je me suis fait chier à mettre un truc qui montre le morceau qui passe avec la pochette et tout. Et les gars, ils font, ouais, mais je suis en 160p, je vois rien, tu vois. En fait, il y a des gens, ils te regardent avec des écrans de téléphone et une connexion nulle, tu vois.
Et ça rejoint ce qu'on disait, ce que tu disais à très juste titre sur le rapport avec la radio. Et c'est d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais, Twitch c'est des animateurs, YouTube c'est des vidéastes. Il y a vraiment ce truc là où sur Twitch c'est quasiment comme de la radio. T'es en direct, t'es là et les gens te consomment comme de la radio. Ouais. Ils te regardent pas forcément, ils font leur bail et tout. Et puis
ils te mettent sur un onglet et puis pas sur.
Peut-être pour opérer une transition vers la deuxième partie et se recentrer un peu plus là sur la musique. Est-ce que, à votre avis, on a parlé, Daz a évoqué une forme de mépris à un moment. Là, on comprend bien qu'il y a une incompréhension parfois aussi dans les codes. On cherche à collaborer. L'industrie musicale historique d'un côté, avec des streamers, bon, on n'arrive pas tout à fait à se mettre d'accord, on ne se comprend pas. Est-ce que Internet, c'est une culture? C'est avec des codes aussi esthétiques, qu'ils soient graphiques, même audio, même dans la musique d'ailleurs. Il y a des musiques d'Internet, entre guillemets, où on reprend des codes musicaux. Ça, j'imagine, c'est un truc d'ailleurs qui vous parle. Et même, la logique pour moi, ce serait de me dire, un label qui naît d'une certaine manière sur Internet, il faut que les artistes ils représentent ça aussi d'une certaine manière, qu'ils soient eux-mêmes habités par cette culture Internet. Avant d'ailleurs, on peut en parler de ça. C'est un truc, ça, qui...
Pas trop.
Hein. C'est vrai,
on a des artistes, Cement and Mines par exemple. Alors peut-être qu'ils ont joué à la Nintendo 64 à une époque. Ouais. Endless Dive, c'était un peu. C'était ça qui était intéressant. Donc je suis aussi manager. Et en fait, Endless Dive, ils avaient ce truc-là en eux, mais c'était pas vraiment principal dans leur vie. Mais vu qu'il y avait Floral. Et qu'ils avaient envie de faire un concept autour de l'enfance, bah c'est allé au point où on a sorti de vinyle une version bleue, une version rouge. Mais parce que ils se sont réappropriés le truc.
Et ref à Pokémon.
Alors ref Pokémon, mais aussi la fameuse ref pilule bleue, pilule rouge.
En fait,
la ref Matrix qui est très connue sur Internet, pilule rouge, pilule bleue, Pokémon aussi, etc. Bien sûr.
Et c'est vrai que c'est pas une règle du tout. Je pense que dans le roster, il y en a, ils ont pas du tout la culture Internet.
Carapace bleue, carapace rouge aussi, pour les cartes.
Mais est-ce que c'est quand même un truc qu'on travaille, ça, au vu aussi de la communauté que vous touchez, qui provient en partie d'Internet, de se dire, vas-y, nous, dans notre DA en tant que label, et les artistes avec qui on travaille, on essaye quand même d'avoir ces codes un peu Internet.
Je pense que oui, mais je pense qu'il faut pas non plus chercher à transformer trop un projet. Nous, ce qui est important, je pense, c'est pour ça qu'on aime un projet, c'est pour son authenticité, qu'est-ce qu'il a envie de raconter en tant que musicien. Alors après, les accompagner sur comment ils peuvent vivre de leur musique, c'est ça le challenge pour moi. C'est effectivement comment on présente le projet. Est-ce que c'est des vidéos YouTube? Est-ce que c'est des captas de live, etc.? Donc, pour moi, c'est ça les codes d'internet qu'on peut proposer. Mais de là à forcer des références jeux vidéo, tu vois, après, cringe, alors qu'ils n'y ont jamais joué, c'est. Ouais. C'est...
Enfin, non, mais ça pourrait être ça. Le choix de collaborer avec. Moi, je pense à des genres. Bon, c'est un peu cliché, mais genre l'hyperpop, par exemple, qui clairement sont dominés. Il y a une culture mème, presque. Tu sais, dans la musique, tu l'entends ouais, qu'il y a du mème ouais, dans cette
ouais,
musique.
Ouais. Tu vois. Ouais, mais comme l'a dit Léo, en fait, le truc, c'est que si jamais on trouve une artiste qui fait de l'hyperpop et en fait, le projet nous plaît et ça se passe bien humainement et tout, pourquoi pas ? Mais c'est pas un prérequis, c'est pas ça. Par contre, tu vois, typiquement, un des premiers artistes avec qui on s'est mis à travailler, c'est Tip Stevens. Mmh. Tip Stevens, c'est le premier streamer musique de France. Tu vois, donc il est quand même inscrit dans ce truc d'internet, il a les codes de Twitch, c'est un streamer en fait, c'est un musicien avant d'être un streamer, mais c'est un streamer. Et aussi, comme tu l'as très bien dit, en fait, on peut donner des codes, on peut donner des conseils, on peut donner des voies peut-être à emprunter pour se professionnaliser, pour potentiellement aller toucher des publics et tout. Si l'artiste il veut pas en fait tu vois genre il veut pas
oui il y a pas de est-ce que t'aimes bien internet pour savoir si on travaille ensemble en fait vous vous en foutez ce qui compte c'est la musique quoi
en fait c'est ça nous ce qu'on aime bien je pense c'est comme ça qu'on fait un peu notre sélection et d'ailleurs on tient à ce que tous les trois on valide un projet pour valider c'est la surprise donc des fois ça peut être une surprise musicale mais des fois ça peut être pas forcément une surprise musicale mais une manière de raconter son propos ça peut être justement par la vidéo par ses clips etc donc c'est ça, tant qu'il y a cette dimension de surprise, nous, on va avoir envie de signer.
Ouais. Bon, JB,
je pense que ça ouvre vers la question que tu allais poser, mais et aussi, on doit faire attention, c'est que nous, notre but, c'est d'être un label de musique, pas le label de Ponce, et pas le label d'un streamer. Ouais. Et donc, pour l'industrie musicale, on le sent, faut qu'on fasse gaffe à ça. Et nous, ça, on l'a anticipé pour le coup. Dès le début, on s'est dit, oula, attention. Et c'est aussi pour ça qu'on est allé sur du post-rock, sur du post-punk. Et en plus, on a pris un autre choix un peu radical. C'est qu'on n'a pas un style de musique prédéfini. Notre direction artistique, c'est autre chose. Et ça, c'était, je pense, les deux trucs qui étaient importants dès le début de la construction de Floral. C'était de ne pas trop jouer sur la culture geek. Et de pas être dans un style de musique et pas aller dans de la pop ou du rap. Pas qu'on aime pas ça, c'est juste que il y a de la place pour il y a déjà suffisamment de gens quoi. Qui font ça.
Et ben t'évoques le post-rock, t'avais parlé de Cemented Minds qui est pas du tout dans la culture internet. On peut s'écouter un extrait d'un morceau de Cemented Minds.
Ah bah quand même.
Alors, je vois pas. J'avais mis de côté parce qu'il est d'ailleurs dans une playlist florale Stone Spit, mais on peut écouter un autre morceau.
Qui... Stone Spit c'est très bien. C'est sur le dernier EP qui vient de sortir, qui s'appelle Motherboard.
Allez, on s'écoute ça. J'ai confondu parce que celui qui est sur la playlist florale, c'est Motherboard, mais j'avais mis de côté Stone Spit. Je l'aime bien parce qu'il a un côté un peu matrock sur les riffs et tout, qui est hyper cool.
Et d'ailleurs, il y a un truc très drôle, c'est qu'au moment où on tourne cette émission, ils sont en train de jouer Cemented Mind sur la scène du Cargo. Ah, c'est la release partie de leur vinyle.
Trop bien, incroyable, ça c'est. On aurait voulu le faire, on n'aurait pas réussi.
tu disais, alors vous me dites ce que vous en pensez, sur ce côté un peu DA, faire attention à ne pas être trop internet, pas trop geek, ça ne devienne pas le truc de Ponce, etc. En même temps, les gars, il y a un truc que moi je vois tout de suite en regardant Floral Records, c'est le nom déjà Floral. Alors il faut savoir que Ponce, sur tes streams, tu as un délire autour de l'esthétique des fleurs.
Bah, je dis qu'on est toutes et tous de très jolies fleurs dans un même bouquet.
Et c'est une DA que tu utilises, il y a des fleurs un peu partout aussi sur tes visuels.
On a le merch en plateau là.
Et vous l'avez complètement réutilisé dans le label.
Ouais.
Alors à la fois quand vous prenez des groupes, vous dites alors ça c'est des bourgeons, ça c'est des racines, lorsqu'ils sont là depuis longtemps, lorsqu'ils viennent de débarquer, etc. Bon, vous réutilisez énormément ce champ lexical et tous ces codes de manière générale. C'est pas l'idéal quand on veut se détacher de ta communauté initiale.
Non, après, je pense que les marketeurs qui s'intéressent à Internet n'ont aucune idée que ma communauté, c'est les fleurs. Okay. Et donc, en fait, et les gens de la musique aussi. Les gens de la musique, ils sont pas en mode floral. Pas un streamer, c'est bon, je pense. Mmh. Vraiment pas, tu vois. Donc,
En plus, c'est pas Internet. En vrai, c'est ton truc à toi, tu vois, mais
c'est ça.
Ça représente rien au niveau d'Internet.
C'est ça.
Tu te dis pas, c'est pas un mème, quoi, tu vois.
Et ça renforce l'aspect communautaire.
Et ça renforce l'aspect communautaire. Et en plus, bah, juste, c'est vrai, on est toutes et tous de très jolies fleurs dans un même monde. En vrai, my bad, quoi, si j'ai raison. Je sais pas quoi vous dire.
Mais il y a pas, parce que c'est ce choix alors esthétique, alors qui peut, j'ai bien compris, être détaché aussi de toi, ce que tu peux faire à côté en stream. Mais déjà, c'est une DA assez appuyée pour un label. C'est-à-dire que c'est pas toujours évident. Il y a des labels qui sont tout de suite identifiés, mais en fait, ils sont rares. C'est-à-dire qu'en général, on connaît les artistes, on connaît pas le label. Il y a quelques labels qui arrivent à devenir une trademark, une marque qui prend presque le dessus parfois sur les artistes.
Edbanger.
C'est extrêmement rare. Edbanger, par exemple.
Roche Musique.
Je pense à XL aussi. Bon, y en a quelques-uns, mais ils sont très... Roche, entre les deux. Entre les deux, c'est les gens un peu dans la musique qui connaissent Roche, en réalité. Tu
oui,
vois.
C'est vrai. Oui.
Je pense que, tu vois, un Dabble parle presque plus, je pense, que Roche en tant que tel. Je sais pas. Ça, à voir. En tout cas, vous avez voulu avoir une DA assez appuyée, qui parfois d'ailleurs peut être, je sais pas, pas parfaitement collée avec ce que font les artistes musicalement. Tu vois le côté fleurs, couleurs pastel, machin, etc., qu'on retrouve beaucoup dans l'univers.
Justement, c'est trop bien d'avoir des gros riffs énervés, tu sais.
Mais est-ce qu'il y a eu une réflexion aussi sur la DA du label en lui-même, au-delà des affaires Twitch, machin, je comprends bien.
Oui, je pense que c'est un petit peu ce qu'on est en train de travailler aussi en ce moment, de re-envisager le label comme un média. Donc voilà, de partager aussi, pas que évidemment des artistes de notre label, mettre en avant d'autres groupes qu'on aime à travers, on a une playlist qui s'appelle Pistil Coup de cœur, mais voilà, on fait tout.
Le champ lexical est...
Évidemment. Non, et puis le champ lexical, il est intéressant parce que dans cette idée dont on parlait en début d'émission de vulgarisation également, c'est difficile de dire ça c'est un contrat de distrib, ça c'est un contrat d'artiste, mais il y a aussi les éditions.
Ouais.
Donc l'idée de Bourgeon Pistil et Racine, c'est Bourgeon, c'est une jeune pousse, une entrée dans le monde musical. Racine, c'est un peu plus implanté dans le sol, on récolte les fruits, etc. etc.
Franchement...
Ah, c'est bien,
toi.
Voilà. Bon,
non, mais
et puis en vrai, malgré tout, je pense sur ce genre de projet, il faut une DA. En fait, il faut une DA. Tu peux pas ne pas avoir de direction artistique entre guillemets claire. Mmh. Il faut pouvoir s'y retrouver. C'est déjà compliqué. Franchement, je veux dire, quelqu'un qui s'intéresse pas spécialement à la musique, tu lui parles d'un label de musique, déjà, il est en mode ça sert à quoi ? Et ensuite, mais comment, c'est-à-dire le label, moi je le retrouve, mais genre, le label c'est une entité, ça existe, ils ont des réseaux, mais ils travaillent avec des artistes, mais genre, c'est-à-dire des artistes appartiennent au label, genre ça marche comment ? Enfin, tu vois, les gens sont un peu perdus, donc, et c'est normal parce que même moi je suis perdu, donc c'est cool de mutualiser et donc d'avoir une DA cohérente, et les fleurs permettent ça, je trouve.
Et dernière question, et après on.
Il y a la moisson ou pas encore ?
Non, mais on va y penser par contre. Attention, la moisson est dangereuse pour la santé.
L'abus de moisson, bien sûr.
Oui, peut-être dernière question sur le côté internet, après on passe à autre chose, promis. Est-ce que vous sentez que pour vos intermédiaires, vos interlocuteurs plutôt, dans l'industrie musicale vraiment, à proprement parler, le fait que vous soyez un peu le truc né sur Internet avec une communauté d'Internet, est-ce que ça peut faire que parfois vous n'êtes pas pris tout à fait au sérieux comme vous le souhaiteriez ?
Tu parles de mépris et de condescendance ?
Oui.
Je pense que heureusement qu'à Léo et moi, on avait déjà notre réseau dans le milieu indé. Moi j'étais à WFM et Radio Béton, donc direct, et la 75e. Là, les gens sont là en mode ah, on ne comprend pas. Léo, pareil, c'est pas qu'on a fait nos preuves, mais on ne débarque pas, quoi. Et on ne sort pas d'école de commerce. Je suis un peu cliché, mais il y a un peu ça. Et et c'est pas fini. Enfin, là, on a notre première carte blanche de festival, c'est le festival de Radio Béton. Et pourtant, on a été voir Solidays, on a été voir plein de festivals, mais ils étaient encore un peu en mode « Ah, on sait pas !» Et au final, c'est vraiment le festival indé qui est là depuis 30 ans, puisque aussi on est un peu ancré à Tours, en plus de Montpellier, bah, qui nous font confiance. Et donc, ouais, il y a ce truc, je pense, de cooptation qui est dans la musique de toute façon, mais... du coup, il y a beaucoup d'expectatives. Et on n'a que 2 ans et demi. Un nouveau label en France émergent, il n'y en a pas eu depuis 15 ans. Microclimat était peut-être le dernier, en tout cas, qui a une résonance, on va dire, en France. Mais sinon, ça fait au moins 10 ans que ce n'était pas arrivé.
Ah oui, je ne me rends pas compte. Il y a peu de labels qui se montent, vraiment de...
Si, il y en a, mais qui tiennent dans la durée. C'est ça le challenge. Genre, qui arrivent à dépasser les 10 ans, c'est vrai qu'on n'en compte pas tant.
Vous avez des modèles, d'ailleurs, qui peuvent vous inspirer éventuellement?
On en a des différents. Je sais qu'Headbanger est ressorti beaucoup. Moi, bah, tu en as cité, mais les labels anglais, Warp, enfin, moi, j'adore Warp, par exemple, qu'on fait du Black Midi et de l'électro. Enfin, ce truc de style très différent et très pointu, moi, m'a toujours inspiré. Et dans l'industrie musicale, j'ai à un moment eu l'opportunité d'aller en major. Ça m'intéressait pas, parce que moi, c'est ça que je veux défendre.
Allez, on s'écoute un autre extrait d'un autre groupe. Alors, peut-être un truc un peu à l'opposé du rock de Cemented Minds.
Janto.
Ouais, Janto, est-ce qu'un un de ses derniers,
j'imagine.
Ou est-ce qu'on part sur un classique?
J'imagine.
Bon, j'imagine,
très bon choix. Ouais. Très très bon choix.
Son dernier album qui est sorti, Mauvaise Herbe, récemment.
Allez, Janto, j'imagine.
Mauvaise Herbe.
Mauvaise c'est herbe. Pas fait exprès, pour.
Non, c'est Mauvaise Herbe. Non. Ah oui, c'est vous qui l'avez. Vraiment très très loin cette histoire.
Ouais, non, là, on impose les noms d'albums aux artistes, ça va.
D'ailleurs, Jeanne, Marie-Jeanne.
Oh là là, incroyable.
Bref, on s'écoute ça, j'imagine Janto. Bien ce morceau.
Ouais, effectivement, c'est contrasté.
C'est contrasté.
Ah, il y a d'autres choses. Hein. Mais ouais,
le
ouais.
Son vert.
Le son vert. Ouais. Non, c'est hyper contrasté. Encore une fois, c'est pas un style qui nous lie. C'est pas un style qu'on veut mettre en avant. Hein. C'est alors, un propos, tu vois.
Justement.
Ouais, mais il faut. Enfin, c'est important aussi pour un label d'être identifié.
Et bien, cette idée de professionnalisation, deuxième partie, vraiment de
c'est l'édito, c'est le journalisme.
Comment effectivement. On a compris l'éclectisme, ok. Il y a forcément une direction, comme le dit Daz. Enfin, il y avait un propos. C'est toi aussi qui parles de propos. Enfin, en quoi il consiste ce propos? C'est-à-dire qu'ok, vous avez monté votre label. Qu'est-ce que vous cherchez à raconter à travers les artistes que vous accompagnez?
Moi, je veux bien démarrer en disant que, bah, avec JB, on a cette sensation de continuer à faire tout ce qu'on a toujours eu envie de développer, avec Fauchage, avec Loïc, etc. Donc, des groupes alternatifs qui ont des valeurs, des messages à partager. Donc, souvent, c'est des valeurs, bah, d'inclusion, voilà, de droits, LGBTQIA+, etc. Mais sans que ce soit forcément martelé, quoi. Voilà, c'est. Mais disons qu'il y a cette volonté d'inclusivité au sens large. Voilà. Et, ouais, je l'ai beaucoup dit peut-être pendant cette émission, mais vraiment cette idée de surprenant, d'originalité, on aime bien ce terme d'avant-garde peut-être aussi, mais ouais, du coup, en tout cas, peut-être que c'est ça la direction et le fil conducteur entre tous ces projets. C'est.
T'es d'accord avec ça, JB?
Ah bah totalement, bah, de toute façon on s'est retrouvé avec Léo sur ça, en écoutant de la bass musique UK, Scarlord et tout, on s'est dit « Ah oh, mais t'écoutes ça !» Et en fait, il y a vraiment un truc en France, Et moi, ça, c'est mon point de vue depuis que je suis tout petit. Je viens d'une famille qui écoutait du punk hardcore, tout ça. Donc, j'ai une éducation un peu particulière sur la musique. Et en fait, moi, à 8-9 ans, j'écoutais des trucs mat rock, noise et tout. Les gens à l'école, ils écoutaient les To Be Free. Donc, ils me regardaient. Mais c'est qui lui? Et beaucoup, j'ai eu cette image du hipster en mode ouais, c'est une posture et tout. Alors que moi, pas du tout, juste j'aime de la musique quoi. Et en France, je trouve qu'il y a un vrai problème, notamment de médias, depuis longtemps, qui ne défend plus cette scène. En Angleterre, c'est Fontaine D.C. qui vend plein d'albums. En France, personne n'en parle. Okelou, qui tout le monde en parle là, il y a même des médias mainstream en France qui parlent de son premier album, c'est son deuxième. Et en fait, elle est partie en Angleterre pour être connue. Elle vient de Poitiers. Moi, je connaissais, enfin, dans... à mes débuts, son premier projet, je le connaissais, et donc elle est partie en Angleterre, quoi, pour vraiment péter. Ouais. Et ça, c'est un problème. Enfin,
c'est
moi,
un truc qu'on dit souvent dans cette émission, que la France a une culture musicale nulle à chier, en fait.
Mais la culture, elle est là. Il y a une scène de ouf, il y a Slift, il y a en fait, ah, y a une scène de malade.
Ah, les artistes sont là, ouais.
Il n'y a pas de médias.
Il n'y a pas de médias, ouais.
Et l'industrie, elle prend pas de risques.
Mais c'est parce qu'on est un pays de vendus, en fait. C'est ça le truc.
Si
je peux me permettre le truc. En fait, t'as dit plein de termes, des termes clés, et c'est ça le propos. C'est alternatif, c'est engagé, c'est tous ces termes-là. Et en fait, le problème, c'est que ça, ce n'est, en France, c'est défendu par des gens, encore heureux, mais ce n'est pas défendu par les gros. Non. Et ça ne le sera pas, parce que si ça l'est un jour, ils perdent de l'argent. Et c'est toujours la même merde. Et du coup, bah, si on peut au moins ajouter nous notre petit grain de sucre là-dedans, pourquoi pas, tu vois. Et c'est un peu ça le truc. Mais ouais, en France, il y a quand même un... tout est bloqué par l'argent, forcément.
Ouais, l'industrie est verrouillée par des gens qui...
Et c'est cloisonné de fou. Ouais. Et du coup, même le public, il s'auto-cloisonne. Et on peut pas leur en vouloir. Le public, c'est difficile pour les gens d'aller diguer et tout. Faut le faire, tu vois. Donc en gros, c'est aussi ça, l'avantage de notre label, si je puis dire, c'est d'aller... montrer aux gens des choses qu'ils n'auraient jamais vues si c'était pas penché sur la question. Donc on les empêche de se pencher sur la question, on leur dit attends, si tu veux partir un peu loin, vas-y, découvre ça, puis après va voir un peu si ce qu'ils font ailleurs.
Notamment, tu veux dire, en partant du public que toi tu peux déjà toucher,
par exemple,
qui est un public généraliste, mainstream entre guillemets.
On y revient, au Bataclan, la moitié n'avait jamais fait de concert de leur vie, et on parle pas de gens de 14 ans, hein. On parle de trentenaires, tu vois, voilà.
Ça veut dire ils écoutaient pas du tout
si.
De musique,
mais
ou...
tu sais que... pas live. Ouais, c'est ça. Tu sais que les concerts, je crois que je crois que sur un an en France, c'est à peu près 20% des gens qui ont moins de 40 ans qui vont au moins un concert dans l'année. C'est rien, mec. Enfin, ouais. Genre, au moins un. Et souvent, c'est un, d'ailleurs. Tu vois. Donc, en fait, l'écrasante majorité des gens ne vont pas en concert, ne consomment pas de musique live.
Puis il faut dire qu'en fonction des territoires, en termes de diversité, etc., c'est vachement épars, ouais, c'est pas toujours évident.
Ça se passe à Paris ou dans les grandes villes.
Ah, ça, c'est... Ouais.
C'est là où moi je pondérerais ça, quoi. Je viens du réseau Ferrarock, par exemple, réseau de radio associative en France. Eh ben, il passe beaucoup plus de musique que n'importe quelle autre radio. Et beaucoup plus de musique différente. Et il y a un maillage, je trouve, territorial. Il y a des territoires plus compliqués. Moi, donc, j'étais en Belgique, je viens de la région centre, j'ai vu un peu Montpellier, clairement. C'est que des cas différents, mais faut pas minimiser non plus ce qui se passe en région.
Non, bien
non,
sûr.
On en parle souvent.
On parle de la strain, par exemple.
On parle des smacks, de ce genre de trucs, d'initiatives pour accompagner les artistes et tout.
250 personnes et tout, un peu squat et tout, c'est trop bien ce qui s'y passe.
C'était juste, par exemple, tu vois, typiquement, tu parlais de bass music. Bon, quand t'as les Anglais, quand ils viennent en France, ils passent par Paris, par exemple.
Ah oui, et Toulouse, il y a la deuxième ville de la bass music, c'est Toulouse.
Mais bon,
ah oui,
ah oui.
C'est stylé.
Mais bon, il y en a deux, vite de façon.
C'est vrai. En fait, le truc, c'est ça, c'est que on a le territoire, on a le maillage territorial, on a le ministère de la Culture qui, quand même, fait beaucoup en termes de subventions et tout aussi pour aider, pour accompagner.
Je touche du bois pendant que tu dis
ça.
On a encore quelques mois, ça va.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que. En France aujourd'hui, si t'es gamin et que tu t'intéresses à la musique, tu peux te retrouver à jouer au conservatoire, à apprendre des trucs, à avoir un instrument dans les mains ultra rapidement. Si tu veux
pas trop cher en fonction de tes moyens.
Voilà, c'est ça. En fait, le truc est très démocratisé. Et pourtant, t'as l'impression que tout cet élan-là qui existe à la base, à un moment donné, il disparaît. Tu vois, le truc monte et après, ça disparaît, il n'y a plus rien et tu te retrouves avec l'industrie de la musique, tu vois, universelle, avec des gars qui prennent zéro risque.
C'est gatekeepé, en fait.
Ouais.
C'est littéralement gatekeepé, parce que c'est ça qui est triste, c'est que tu dis la musique et tout, mais en France, il y a beaucoup de gens qui font de la musique. Il y a beaucoup de gens qui sont passés en école de musique, en conservatoire.
Quand je dis on a une culture musicale nulle à chier, c'est vraiment la partie média mainstream, en fait, qui fait zéro effort, tu vois. Vraiment,
On a grandi avec Nulle Part Ailleurs qui mettait Slipknot à 20h devant des millions de personnes. Et il y a un truc, à un moment, ça a fait plus rien. Et aussi autre chose, surtout en région, c'est les bars. Ouais. Toutes les villes ne peuvent plus faire de concerts amplifiés. Et maintenant, c'est des DJ parce que les collectifs de riverains, les gens qui allaient en concert en bar il y a 30 ans, maintenant ils sont propriétaires de l'appart au-dessus, ils veulent plus de bordel. Et ça, c'est un problème.
Oui, non, ça c'est vrai. C'est souvent des Parisiens d'ailleurs.
Et tu vois partout, ça je pense à des questions.
Non, moi juste pour répondre à la question initiale, du coup, bah, tu vois, c'est tout cet engagement. Du coup, qui est finalement la DA, on va dire, au niveau des sons et des artistes avec qui on travaille, plus que ce que tu vas entendre dans le casque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plus ce propos-là, quoi.
Léo, tu voulais...
Pour compléter, je pense que ce qui nous a vraiment nourris tous les trois, c'est aussi le live. Et donc, pour un label de musique, bah voilà, bon, c'est logique, mais en même temps, c'est quand même important. Et il y a plein de choses qu'on a repris, peut-être des festivals, par exemple, la diversité d'une programmation. Mmh. Ça vient des festivals où, voilà, on a fait des festivals de psytrance, on a fait des concerts de rock, on a fait tout ça, quoi. Donc, je pense que cette diversité, elle vient de là. Et il y a quelque chose qu'on a repris aussi, par exemple, du live, c'est les tarifs réduits pour les vinyles. Voilà, on s'est dit, bah, c'est chouette de se dire, on peut accéder à la musique si on est minima sociaux, étudiants, étudiantes, etc. Donc, reprenons ce concept-là de tarifs réduits aussi pour les disques. Donc, voilà, on essaie. Mais donc, voilà, c'est pour ça que je voulais arriver sur. On est inspiré aussi par le live énormément.
Tout à fait.
Et du coup, donc, vous le disiez en début d'émission, les artistes qui rentrent dans le label, il faut qu'ils soient validés par vous trois.
Ouais, 100%.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, des fois, deux qui y croient vraiment, un troisième qui est en mode. Ok, je vous suis, je vous fais confiance ou...
Alors, si ça peut arriver, bien évidemment.
On veut les noms dans le roster.
Ça peut complètement arriver. Une, deux personnes sont bouillantes sur un projet, la troisième un peu moins, mais elle n'est pas contre. En fait, c'est ça le truc. Ouais. Par contre, si...
Oui, s'il y a une...
Ah, si c'est contre, c'est contre. Yeah, on ne réfléchit pas, tu vois. Récemment, on a eu des cas où on discutait, ça chauffait les OJB, et moi, j'étais en mode, franchement, je ne suis pas très fan, les gars. Mm. Et ce n'est pas passé. Et inversement, ça arrive... Ouais.
Okay.
En gros, on a droit de veto, tous les trois.
C'est ça.
Est-ce que justement, dans la continuité de la question de Daz, sur avec qui vous travaillez, globalement, je pense qu'on peut dire que c'est des groupes assez émergents, dans le sens où typiquement, si on s'arrête juste au stream sur Spotify, on est entre 500 et 30 000 à les max à peu près, auditeurs mensuels à peu près. Donc, c'est des groupes vraiment émergents. Est-ce que dans l'optique de développement d'un label aujourd'hui, le développement passe par être en capacité de signer un groupe qui a une plus grosse portée déjà, est-ce que c'est un objectif pour vous, par exemple?
La question s'est posée assez tôt dans le label. C'est vrai que moi, c'est un, bah voilà, avec la Belgique, j'avais le pont des musiques indées, donc l'Isistrata et tout, et j'ai développé mon réseau là-dedans. Et il y a un groupe, Tramaos, qui nous avait contactés. Et c'est vrai que cette envie, un bon groupe, par exemple Black Midi, il veut un groupe en France, un label. Ah, il appelle qui ? Et c'est vrai qu'à terme, on se dit peut-être que nous, on pourrait avoir ce rôle d'import de musique indé alternative. Mais c'est vrai qu'on s'est dit c'est trop tôt. Et c'est peut-être une envie, et ça pourrait être intéressant, puisque ça peut aussi faire découvrir la scène française ailleurs et créer des ponts, commencer à parler avec des labels étrangers. Bah, c'est une envie, mais c'est vrai que...
Et d'un point de vue développement pour vous, ça serait aussi un levier de développement, justement, de toucher des gens. Parce que... Souvent, l'image qu'on se fait d'un label, c'est en gros, et d'ailleurs globalement d'un projet musical, c'est les gens qui sont là depuis le début, et puis en fait, finalement, ça pète un moment ou un autre. Et ça, c'est souvent quand même ce qui fait émerger des figures, que ce soit d'ailleurs des gens qui font des clips, des producteurs, au-delà, tous les gens qui entourent l'artiste, en fait. Si son projet global prend beaucoup, ça met en valeur tout le monde, y compris le label.
Et ça ruisselle, tu veux dire. Ouais. Incroyable.
En fait, t'as absolument tout dit. Aujourd'hui, le système, comment on fonctionne financièrement, la Ponce Corp, donc l'entreprise issue de mon streaming, donne de l'argent à Floral Records. Pour que Floral et du coup on gère les budgets comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Combien on a cette année? Ça dépend en fait de la Ponce Corp. Qu'est-ce qu'on a sur la Ponce Corp? Qu'est-ce qui va se passer sur Floral Records? Et pour le moment, c'est comme ça qu'on fonctionne. Le rêve ultime, comme c'est le cas de labels qui tiennent, c'est d'avoir une artiste qui fonctionne de ouf. Et en fait, grâce à ça, le label, sur ce qu'il va gagner, finance tous les autres projets. Mmh. Et ça, ouais. Mais par contre, tu signes pas l'artiste quand c'est déjà une resta, en fait. Tu vois
Parce qu'il y aura d'autres acteurs.
Et en plus, il faut pouvoir assumer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, je dis n'importe quoi. Angèle, elle arrive, elle dit moi, j'ai trop envie d'être signée Flower Records. On sera en mode meuf, oui, on a rien pour toi. Genre, tu vas galérer. Genre, tu vas y aller toi-même. Genre,
juste en termes de ressources d'équipe,
c'est ça,
etc.
Ouais, c'est ça. En fait, il faut être aussi cohérent avec, avec ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qu'on oui. a, nos ressources humaines, matérielles.
Enfin, alors, sur l'économie, on terminera peut-être avec ça, parce que tu as commencé à évoquer des choses. Du fait que toi, en fait, tu mets aussi, entre guillemets, de l'argent avec ce que tu génères sur le stream, on a bien compris.
C'est pas entre guillemets, là, il met de l'argent en tout cas.
Complètement, absolument. Enfin, je disais, c'est plus le toi entre guillemets, enfin, c'est
oui,
ta société.
Non, mais c'est important. En vrai, c'est important de le dire parce que c'est pas moi, dans ma boîte Ponscorp, dont oui, je suis le créateur et le gérant. Il y a des gens en CDI, ils sont beaucoup plus dans l'opérationnel que moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, souvent, je dis que ma gérante, c'est Céline. Céline, c'est mon bras droit. C'est... En vrai, bah, elle fait tout, sauf streamer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment pas moi qui donne l'argent, c'est la boîte. Ça change tout.
En tout cas, ce sera peut-être un peu le dernier élément dont on parlera. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous venez de dire si demain Angèle nous contacte, génial, hein, mais nous, on n'a pas forcément les compétences, entre guillemets, pour travailler une Angèle. Alors.
Sauf si elle a envie de galérer aussi.
Franchement, forcément.
J'ai envie vraiment d'en chier. Voilà.
Si on doit, de manière un peu schématique, dire quelles sont les compétences nécessaires quand on monte un label, vous partez de zéro. Ce qui a été votre cas il y a encore 2 ans.
Oui, c'est vrai.
Vous partez de zéro. Alors, vous aviez tous un passé, bien sûr.
Donc, ils partent pas de zéro, déjà. Paf, capital,
naturel. Avec cette structure-là, en tout cas.
Mon Dieu !
Parce que ça nous permet aussi de faire un petit point sur qu'est-ce que c'est qu'un label, tout simplement. Quel est son rôle ? Qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Quelles sont les compétences nécessaires quand vous montez une structure comme Floral Records ?
En vrai de vrai, pour Floral Records, le seul qui avait déjà bossé en label, c'était JB. Ouais. Moi, j'organisais des concerts à Paris voilà, depuis 2014. J'avais développé des groupes, j'avais managé des groupes, accompagné. J'ai fait une formation à Montpellier qui s'appelle Parcours d'artiste, qui était à la fois producteur, musicien. Donc voilà, j'ai pu accompagner des groupes. Mais vraiment, ce que c'est un label, je l'ai découvert le jour où on s'est dit on fait Floral.
Il regrette la création du label, le manin.
Il a quand même une compétence extrêmement importante pour gérer un label, être bon en Excel. Et il est très bon.
Alors, c'est vrai.
C'est ce qui manquait dans l'expérience d'avant, moi, puisque j'ai appris un peu à le faire, mais voilà, j'ai appris aussi à le faire en stage. Donc, je parlais à la 7-5, mais
la 75e session dont on a parlé avec Sheldon rapidement.
Bien sûr. Et j'ai fait les formations d'Issoudun, et je suis content d'en parler un peu, parce que avec les baisses de subventions, notamment dans la formation, c'est en péril, alors que ça fait plus de 30 ans que ça existe, et beaucoup de gens de l'industrie sortent de cette formation, même le patron de Warner. Et c'est une formation professionnelle qui dure 6 mois, c'est 35 heures semaine. Il y a une semaine de pause, je crois, c'est tout. Et c'est que des professionnels de la musique qui viennent. Et de tous les horizons, le petit label associatif comme la personne de Major. Et ça, c'est super intéressant.
C'est à Issoudun, la ville d'Issoudun.
C'est à Issoudun et c'est un vrai choix aussi. Ils auraient pu aller à Paris plein de fois, mais ils se sont dit non, mais là.
On va vraiment aller au milieu de nulle part.
Mais c'est ça, parce que tu vas pas être tenté pour aller amener tes potes et tout en soirée. Non, t'es à Issoudun pendant 6 mois, tu passes du temps avec 20 régisseurs, régisseuses, 20 personnes qui sont plus en prod. Et à l'époque, il y avait 10 personnes en technique de plateau. On était 50 à Issoudun pendant 6 mois. Et ça crée des liens, ça crée un réseau, c'est un partage d'expérience aussi, parce que pour y rentrer, il fallait déjà avoir fait des choses en bénévole, en associatif et tout. Et il y avait même plein de profils très différents. Et c'est moi, franchement, sans cette formation...
Et en quoi elle consiste, cette formation ? Qu'est-ce qu'elle est censée amener à quoi, comme type de poste ?
Moi, j'ai fait chargé de production dans les musiques actuelles. Maintenant, c'est chef de projet musique ou chef de projet booking. Mais à l'époque, on apprenait tous les métiers. Un peu de booking, de la tournée, de la production de date, du label, de l'édition, du management. Enfin, vraiment tous les métiers. Okay. L'édition, y a que moi qui est sur les 20, parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est un domaine assez méconnu de la musique, mais c'est le premier métier de la musique, historiquement. Et du coup, t'apprends un peu de tout, et ça te plaît ou ça te plaît pas, mais au moins tu sais en sortant ce qui pourrait te plaire à vie, ou en tout cas ce que tu pourrais faire toute ta vie. Et en plus, tu comprends ce que fait ton collègue, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est vraiment précieux. Et c'est vrai que moi, ça m'a apporté vraiment ça, et surtout aussi un sentiment de légitimité. En sortant de ça, je me suis senti légitime de me lancer.
Alors, ok, donc c'est à la base, c'est JB qui a fait la formation et qui amène un peu le côté les compétences pour un label. Parce que si on doit résumer, il y a le côté produire. Alors, un label produit avant tout. Donc ça consiste en quoi exactement produire un groupe ?
Produire, ça va être par exemple choisir un studio, choisir le réalisateur potentiellement, l'ingé son qui va faire le mixage, le mastering.
Ça les, peut payer.
Être, ça, les payer. Les payer. Hein. Ça peut être fait en home studio très bien aussi. Voilà. Voilà. Donc il y a aussi après la partie ben, comment on va fixer ce master. Est-ce que ça va être sur un CD, sur un vinyle, etc. Donc tout ça, c'est des prestataires différents avec qui on travaille. Et je pense que ouais, il y a quelque chose que je voudrais rebondir sur ça. Ce qui nous rassemble aussi, c'est le côté DIY, do it yourself. Vous en parliez aussi, je crois, dans l'épisode avec Last Train, ce côté prendre un peu toutes les casquettes pour savoir de quoi tu parles. Donc pour moi, c'est ça, monter un label, c'est aussi savoir faire un peu de tout, savoir réagir et se dire ah ben en fait j'ai jamais fait ce type de textile par exemple, comment je vais faire, se renseigner, comparer, enfin voilà, c'est
mais... à l'inverse des majors où vraiment on met genre tel taf et tout, et Philippe Couder, donc Fischer Circles, qui a créé la FELIN, la Fédération des labels indépendants, il m'a dit une chose qui m'a marqué à l'époque: on est des artisans, on n'est pas des industriels.
De ouf.
Et vraiment, c'est ça qui nous porte. Quoi.
Mais du coup, quand des artistes vous approchent, ou quand vous vous approchez des artistes, on imagine que les artistes ont tous et toutes un niveau de développement différent. Il y a des gens qui sont habitués à faire des trucs par eux-mêmes, d'autres pas du tout. Vous, il n'y a pas du coup une façon de procéder un peu standardisée où vous dites bah, essayez quand même de faire à peu près comme ça parce que c'est ce qu'on fait pour tout le monde, ou c'est vraiment du tailor-made sur mesure pour chaque...
Déjà j'imagine qu'on parlait de la production, c'est-à-dire que vous accompagnez certains artistes où vous mettez les moyens pour qu'ils puissent enregistrer, mais d'ailleurs en général derrière le master vous appartient quand t'es producteur.
Tout à fait.
Alors qu'il y a d'autres, j'imagine que ça, par contre, ils le font de leur côté et vous les accompagnez sur le reste. Ça doit exister aussi.
En fait, c'est ça. Je comprendre ce que font les autres. Il l'a dit dans l'école à Issoudun. En fait, c'est ça. Faut imaginer. Moi, j'aime bien montrer ça parce que c'est comme ça que moi j'ai compris. C'est qu'il y a plein de métiers dans la musique. On le sait, il y a plein de métiers. Le label, ça va être le liant de tous ces métiers pour les artistes. Pour que les artistes puissent se dépatouiller avec tout. Donc, en gros, tu vas avoir booker. Donc trouver des dates, booker, tourneur, trouver des dates. Tu vas avoir l'édition, donc gérer tout ce qu'est l'édition.
Que vous faites aussi, on pourra en parler.
Et tout à fait, ce qu'on fait aussi. Tu vas avoir le management. C'est cool quand même un groupe a un manager, une manageuse. Tu vas avoir... qu'est-ce que tu vas avoir ?
L'attaché de
presse, tout à fait. En fait, t'as plein de choses. T'as plein de choses. Et en fait, le but du label, c'est faire en sorte...
Être l'interface, quoi.
Ouais, être l'interface parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. Sauf évidemment les énormes majors où eux, bah, chacun, ils ont leur pôle, etc. Mais nous, par exemple, à la base, on n'est pas booker. On le fait pour certains groupes parce que on se dépatouille et qu'on a envie qu'ils jouent et voilà. Mais sinon, la plupart des artistes avec qui on travaille, ils ont leur propre booker ou leur propre bookeuse. Ou alors, ils ont leur manager aussi.
Okay.
Et donc, en fait, le manager, pour nous, fait partie du groupe et on communique avec, etc. Et donc, en fait, le label, faut vraiment le voir comme un liant, comme quelque chose où tu dois voir avec ton tourneur. Vas-y, je vais voir avec ton tourneur. Tu vois avec le tourneur, puis après tu dis à l'artiste que l'artiste est à penser juste la musique. Entre guillemets, évidemment, ce sera jamais ça.
Oui, mais c'est-à-dire que l'artiste peut venir avec donc son propre staff.
Ouais,
bien sûr.
Ouais.
Qui bosse. D'accord.
Bien sûr.
C'est pas vous qui allez dire tiens, nous on va te mettre avec ce manager ou cette manager.
Mais surtout pas. Parce que c'est comme si tu disais bon, on va te mettre avec ce guitariste.
Ouais.
En vrai, manager, c'est un peu ce niveau-là. Hein. C'est quand même quelqu'un de la famille, tu vois. Genre, c'est quand même c'est ça. Et puis même au niveau, par exemple, les bookers, c'est des réseaux. C'est des tissus très particuliers. Donc en fait, si un artiste travaille avec un booker depuis 4 ans, il n'y a aucun intérêt à changer, sauf si vraiment il y a une proposition de fou de quelque chose.
Et à l'inverse, vous pouvez avoir le réseau pour éventuellement l'orienter vers le booker qui pourrait lui correspondre.
Exactement. C'est le but. En fait, c'est donc en tant qu'intermédiaire, au-delà de effectivement être l'intermédiaire au niveau de ce qui se passe, de le dire, de l'organisation et tout, c'est aussi faire en sorte d'armer entre guillemets les artistes avec plein de gens, c'est-à-dire essayer de trouver des bookers, essayer de trouver de faire fructifier l'édition, essayer de, s'ils n'ont pas de manager, faudrait trouver un manager, enfin tu vois.
Moi j'ai une question, c'est du coup, est-ce que dans l'histoire du label, vous avez eu le cas où artistiquement ça matchait de ouf, mais pour tout ce qu'il y avait autour, c'était juste impossible de bosser avec les gens?
Ah oui.
Ça arrive, forcément, ouais. Forcément. En vrai, c'est vrai que nous, on aime bien bosser avec des artistes producteurs, enfin des artistes qui savent se mettre à la place des producteurs. Et nous, on a cette fibre artistique aussi, donc on comprend certains enjeux aussi. Donc pour nous, c'est important. Mais évidemment, il y a des cas de figure où... voilà, et je pense qu'un artiste, tristement aujourd'hui, qui est strictement artiste et qui n'a aucune vision de la réalité économique de maintenant, je pense que c'est compliqué.
C'est
ou alors, dans tous les cas, est-ce que ça a un intérêt à faire une collaboration avec un label si c'est ça?
D'accord. Et c'est là où l'aspect bourgeon et racine aussi, on y voyait un intérêt. Ah, okay. Parce que une des règles, pour l'instant qu'on n'a pas dérogé jusqu'au moment où on le fera, mais c'est on commence par bourgeon. Parce que c'est un contrat de distrib, on fait un EP, un album ensemble, on le distribue. Si ça se passe mal, on c'est pas là. Grave. Ouais. On garde pas les masters, tout ça. On a juste fait la distrib. Et ça permet aussi de tester ça, cette relation, voir la connaissance du milieu et tout. Moi, ça, c'est le petit truc que j'avais appris aussi de mon expérience passée. C'est que c'était vraiment full musique indé et tout. On y va à fond pour la musique. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ce truc-là, de vraiment la musique, elle est trop bien. Et même, ça apprend. Mais en fait, derrière, ça peut pas suivre. Il n'y a pas une stabilité, malheureusement, parce que vraiment, ça ne devrait pas être le cas. Mais il faut une stabilité, une certaine conscience de notre société capitaliste, et si tu l'as pas, bah ça ne peut pas marcher.
Faut être professionnel.
Bah ouais, mais la musique, enfin il y a 40 ans Jimi Hendrix il avait pas ça, enfin voilà, en ce moment à notre époque t'as pas le choix.
Donc là, vous avez évoqué la distribution, parce que alors, on a parlé de la production, on a parlé de l'édition, enfin on pourra préciser pour l'édition après, mais là vous venez de parler de distribution, donc c'est-à-dire que pour les artistes que vous accompagnez, vous allez faire en sorte que ça soit sur les plateformes de streaming, vous allez faire en sorte que ça ait éventuellement un pressage de vinyle, éventuellement un pressage de CD, peut-être, je sais pas si c'est vous qui faites ça, mais qu'il y a un master spécifique pour le vinyle, un master pour, enfin je sais pas si c'est des trucs que vous travaillez ça, mais enfin tout cet accompagnement globalement du réseau ensuite qui va faire qu'on peut accéder à la musique des gens.
Tout à fait, ouais.
Mais est-ce que vous avez votre mot à dire sur l'artistique quand vous arrivez en distrib ? Est-ce que vous dites, ouais, nous, le tracklisting, on l'aurait pas fait comme ça, ou... ouais.
Nous, okay. On donne toujours notre avis.
D'accord. Okay.
Et c'est hyper important, et c'est même comme ça que ça a renforcé des relations de travail aussi. Okay. Parce que, voilà, on donne notre avis. Par contre, on va jamais mettre un veto, on va jamais dire, cette musique, elle sort pas. Okay. c'est vraiment où on va jamais dire il faut à tout prix que tu fasses ça pour qu'on continue de bosser ensemble.
Ouais, okay.
On donne notre avis et on essaye de l'argumenter le plus possible, hein, évidemment.
Oui, pour vraiment faire une collaboration et pas imposer les choses aux artistes.
C'est ça.
Vas-y.
Non, t'es
j'allais dire, il y a un petit truc aussi qui me fait écho dans ce que tu disais, les outils qui sont répliqués avec l'expérience, etc. Donc évidemment, c'est du cas par cas, mais par exemple, sur la gestion du merch pour les t-shirts, par exemple. Aujourd'hui, parce qu'on a commandé plein de fois des t-shirts, on arrive à faire une répartition par taille, si tu veux en faire 50, 100 ou 1000. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'au fur et à mesure, on acquiert de l'expérience, etc. Ouais. Et donc, en fait, on arrive à trouver de la méthodologie, typiquement pour faire des retours, pour, OK, on va pas faire un retour à peine sorti de scène, par exemple. On attend. Voilà, ouais. Y a plein de choses comme ça, humaines, qui se forgent avec l'expérience. Et donc, c'est en ça que, on réutilise des outils. Mais par contre, voilà, y a pas d'accompagnement type, quoi.
OK.
On a parlé de contrats de distribution sur la petite quinzaine d'artistes que vous accompagnez, ça représente quoi ceux qui sont vraiment, est-ce qu'il y a des contrats d'artistes, est-ce qu'il y a tout le monde est en, ouais, comment ça se divise à peu près chez vous?
C'est du cas par cas, mais ce qu'on aime bien comme format, c'est faire un contrat d'artiste et de coprod. Par exemple Tip Stevens, il est en contrat d'artiste, mais on a aussi, c'est un contrat d'artiste en tripartie, Tip Stevens en tant qu'artiste, Floral Records en tant que label et sa structure à Tip Stevens en tant que coproducteur. Donc en fait c'est un contrat d'artiste, mais il a aussi son mot à dire côté production, et c'est un modèle qu'on aime bien. Après il y a des groupes qui sont là en mode non mais nous créer une asso, une structure pour faire ça, on veut pas.
Parce que juste on précise le contrat d'artiste, est-ce que tu peux juste nous préciser?
Ouais. Contrat d'artiste, c'est vraiment le contrat le plus, en tant que label, le plus vénère, le plus fort, on va dire, qui lie un label à un artiste. C'est vraiment l'artiste, il vient en studio, il est payé, il prend ses cachets, il ne sort pas de thunes pour produire, c'est le label, le producteur qui va tout payer, et du coup l'artiste va gagner entre 10 et 15% des royalties, donc très peu, alors qu'une licence, la production, l'aspect vraiment le processus de production de l'album, c'est l'artiste qui va l'assumer, qui va payer le studio et tout, et nous on arrive et on est licencié, on a le droit d'utiliser le master pour le commercialiser. Donc ça, c'est les deux grands types de contrats, mais en fait c'est que du cas par cas, c'est de la négociation. Un contrat, c'est y a des règles, mais en vrai dans la production phonographique il y en a très peu, en édition il y en a, mais en production phonographique c'est deux parties se mettent d'accord, quoi.
Et sur le contrat de licence, vous, comment vous vous rémunérez si vous exploitez pas le master directement, si vous appartient pas?
Alors, on peut prendre un pourcentage du master quand même, mais il ne nous appartient pas. Et on prend, ça dépend en fait de l'investissement. Si on paye des 3 clips et que ça représente une somme substantielle, on va prendre plus de royalties sur les ventes. Mais ça, c'est vraiment que du cas par cas.
C'est du cas par cas de ouf. Hein. Quand on dit, donc, pour les gens qui comprendraient pas cet écosystème-là, donc quand on dit les masters vous appartiennent pas, c'est-à-dire que si l'artiste quitte le label, vous pouvez pas sortir sa musique maintenant qu'il est plus là, ou il y a quand même un droit de regard.
Plus ou moins ça. Bah en fait, t'as souvent dans les contrats, t'as une période d'exclusivité, on va dire, où en gros, même on sort en licence, donc les masters, ils sont encore appartenus par le groupe, mais pendant 3 ans, ils peuvent pas aller voir un label au bout d'un an et dire on represse. Ça c'est pas possible.
D'accord.
Il y a une période où on se dit ok, ça à nous pendant 3 ans d'exploitation. Après, ça se renégocie, ça peut se racheter, tu peux racheter les droits de production, ou même, tout se négocie, mais il y a quelques règles quand même à respecter. Et c'est vrai qu'en contrat d'artiste, par contre, c'est pas ça. Taylor Swift, c'était beaucoup en tout cas, les gens qui s'intéressent un peu à l'industrie, c'était un cas intéressant. C'est que Taylor Swift n'avait pas accès à ses masters.
Elle a refait les albums.
Elle a tout réenregistré, tout pareil. Parce qu'en fait, le droit master, c'est pas le droit de la composition, c'est le droit de l'enregistrement.
Ouais.
Donc si elle a pas le droit master, elle retourne en studio, elle réenregistre tout pareil, exactement les mêmes morceaux. Elle a les droits master.
Et ça nous permet d'ailleurs, parce que donc là tu as fait le distinguo entre le master qui est en fait l'enregistrement figé, le phonogramme, c'est comme ça qu'on a dit normalement, ce n'est pas les droits effectivement sur la composition en elle-même, où là on relève de l'ordre de l'édition, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Quelque chose que vous faites aussi.
Ouais, moi c'est Aïssoudain, j'ai vraiment eu ce déclic, et en fait venant des médias, j'avais un peu plus d'appétence à ça, parce qu'il y a une logique de génération de droits et tout que je connaissais quand j'étais en radio, et en fait le droit d'auteur, c'est les ayants droits originaux, c'est l'œuvre de l'esprit, et donc c'est vraiment la composition et le texte. Donc c'est vraiment... schématiquement, parce que c'est plus le cas maintenant, la partition et le texte. Et ça, par exemple, les groupes de reprise, quand ils font un concert dans une salle de concert, ils déclarent les reprises qu'ils ont jouées, et sur la billetterie, il y a un pourcentage des œuvres qu'ils ont reprises qui vont aller aux compositeurs originaux de ces œuvres. Et c'est souvent l'exemple que je prends qui est le plus parlant, et c'est vraiment ça qui est important à comprendre, c'est que le droit master et le droit d'auteur, c'est très différent, et c'est vrai que beaucoup d'artistes ne comprennent déjà pas cette différence, parce que c'est un milieu assez complexe, mais au final, ça se comprend au bout d'un moment, en discutant avec les gens.
Là, je commence à avoir une idée un peu de votre métier, ce que vous faites au quotidien et tout. Comment vous répartissez les rôles? Parce que, alors, JB, j'ai compris, il a pris le lead là sur tous ces sujets. Toi, Léo, tu vas être complémentaire sur ces sujets-là aussi?
Ouais, on est assez complémentaires quand même sur l'opérationnel. Moi, je viens quand même pas mal d'orgas de concert, comme j'en ai parlé. Donc, la partie organisation des floral parties, je vais chapeauter ça avec Gus notamment.
Les floral parties, c'est des petits concerts que vous organisez avec plusieurs artistes.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais effectivement, notre soirée de lancement, c'était une floral party au Bataclan, et on s'est dit on va reproposer cet événement, en gros un espèce de mini festival sur un soir, quoi, où on présente des artistes du label, mais pas seulement. Avec cette idée de, toujours les fleurs évidemment, mais une scénographie florale, vous vous en doutez, voilà. Mais effectivement, moi je gère pas mal cette partie-là événementielle. Toute la partie admin aussi, parce que geek d'Excel, ancien ingénieur, donc j'aime bien ranger des choses dans des cases. et finalement, de fait, un peu le merch aussi, je crois. Mais bon, en vrai... avec JB, je donne mon avis sur les éditions, JB donne son avis sur l'orga de concert,
Après, t'as ce rôle de DG quand même.
Bien sûr.
T'as ce rôle de directeur général où t'as une vision qui est absolument 360 sur tout.
Oui.
T'as la main sur tout, dans le sens où t'as une vision sur tout, et c'est aussi ça quand même le truc.
Tout à fait.
Enfin, oui, tu l'as pas dit, quoi.
C'est ça, oui, c'est vrai.
Je peux me permettre.
Sur le papier.
Allez, on peut le dire.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai que moi j'ai un peu ce côté logique d'organisation, donc en fait gérer les équipes et déléguer au maximum et dire ok, vas-y, reprends ce sujet-là, etc. Ça va être ça le gros de mon taf, effectivement. Ouais.
Et du coup là, on évoquait une quinzaine de signatures. Tu disais une petite quinzaine, moi je trouve que c'est assez balèze, 15 déjà.
C'est 15, enfin, en tout cas,
c'est
pas mal une quinzaine.
C'est bon.
Et du coup, justement, ma question, c'est en termes de bande passante, pour votre structure, vous pensez pouvoir en gérer combien des artistes
Pas plus, hein.
Franchement, c'est déjà bien. Hein.
Ouais, non, en fait, parce qu'on parlait justement de établir sa structure, faire grandir la marque, le label, etc. Donc tu te dis, il y a des objectifs de dans 5 ans, il faut qu'on ait 50 signatures ou machin, ou.
Il n'y a pas un objectif de nombre de signatures. Évidemment, c'est toujours stimulant d'accompagner des nouveaux projets. Mais c'est vrai qu'on a démarré très vite, très fort, comme on dit. Ouais. Et là, on est plus dans une envie de stabilisation.
D'accord.
Il y a l'édition. Il y a des noms qui ne sont pas sur le site, par exemple, en édition.
D'accord.
Moi, j'avais donc créé les éditions de Like à l'époque. Et j'ai gardé la collaboration avec Floral Publishing, avec ces groupes. Mais ils ne sont pas sur le label.
C'est
donc il y a un peu plus que 15. Ouais. Mais l'édition, c'est une autre manière, une autre temporalité de travailler. Et voilà quoi. Mais c'est vraiment différent.
Il faut faire la distinction quand même entre Floral Records, qui est le label. Donc les artistes, la quinzaine d'artistes dont vous avez parlé, ça, c'est des artistes qui sont dans le label, et donc ce fameux lien dont je parlais tout à l'heure, là où des gens qui viennent chez Floral Publishing, on n'est pas label. On fait juste l'édition. Et on parlait tout à l'heure de, imagine Angèle, elle veut venir chez Floral, ben en fait on est incapable. Enfin, la réalité, c'est qu'on est aussi incapable. Tu parlais de 50 artistes ou quoi, et il y a un moment donné, ben, les ressources humaines, matérielles, elles sont limitées, et le but, c'est quand même faire en sorte que les projets avec lesquels on travaille déjà évolue et qu'on arrive à les satisfaire aussi ces gens-là, tu vois. Donc clairement le but, c'est pas l'expansionnisme à fond.
Toi d'ailleurs, ton rôle dans tout ça.
Bah moi je stream, mon gars.
On est là, hein.
Alors en vrai, évidemment, je ne fais quasiment pas d'opérationnel. C'est pas mon métier, j'ai pas été formé à ça. Moi, c'est Léo et JB qui me forment à chaque fois qu'on a des conventions pro, etc. Bah, j'apprends sur le tas, je discute, je suis assez curieux, donc ça va. Et ça me plaît, ça me stimule, j'adore. Donc en fait, nous, on se fait quand même des une fois par semaine, on s'appelle pour faire un point sur certaines choses, etc. Mais concrètement, moi, je fais quasiment rien, en fait. Je fais rien. Alors si, pendant les Floral Parties, je suis dispo quand même, voilà, parce que je suis là, quoi. Mais en soi, au quotidien, je fais rien de spécial, si ce n'est garder un œil, être curieux et continuer à voir ce qu'on fait, quoi.
Sur l'aspect édition, je pense qu'on peut encore un tout petit peu insister là-dessus, tu as précisé en quoi ça consistait, mais c'est logique quand on monte un label de se dire en parallèle je monte une structure d'édition.
C'est logique dans l'industrie, mais beaucoup moins dans l'indé, parce que l'édition est assez peu connue en fait, et ça paraît compliqué pour tout le monde. Et par contre, les gros tourneurs, les gros labels, t'inquiète qu'ils ont des boîtes d'édition, les chaînes de télé ont des boîtes d'édition, parce qu'en fait
ça génère de l'argent.
Ça génère énormément d'argent quand c'est sur TF1, vraiment, et c'est un des problèmes. Nous, pour l'instant, l'édition, ça génère pas si ouf. Mais si un jour on rentre en rotation sur Énergie, mais c'est abusé, c'est extrêmement inégalitaire là-dedans, mais c'est un business et tout ça. Mais c'était important pour nous parce que ça permet aussi d'accompagner les groupes d'une autre manière et de stabiliser les choses. Et dans le modèle économique, ça devient un peu inévitable. Et quasiment tous les labels indés maintenant, qui ont un peu un historique, ils savent qu'il faut des éditions à côté. Mais c'est vrai que vu que moi, c'est d'abord ce métier-là que j'ai développé, c'est un parti pris un peu différent. Ça me tient vraiment à cœur de faire le taf d'édition. Et je voyais ça comme le manager des œuvres. En cours, on m'avait dit ça et je le vois vraiment comme ça. Moi, souvent, au début, les premiers rendez-vous, quand tu vas voir un groupe indé et que tu dis je vais vous signer en édition, direct, c'est levée de bouclier. Pour eux, c'est vraiment le business et tout. Et moi, j'étais là en mode non, mais je fais ça parce que je suis anticapitaliste. Ils sont là, ah, je comprends pas. Mais parce que c'est vraiment le domaine. Et moi, c'est pour ça que j'étais à l'aise. Tu signes une fois, c'est fini. On prend 50-50, l'éditeur prend 50%, le groupe 50%, et il n'y a plus d'autres négociations. Donc derrière, moi, je me bats pour augmenter cette somme pour que les 50% fassent plus que les anciens 100%. Et c'est ça, moi, qui me mettais à l'aise au début quand je me suis lancé. Et l'édition, moi, je le vois toujours comme ça. Après, ça reste un domaine vraiment, maintenant que je suis un peu moins naïf, vraiment très très concurrentiel, et tous les gens de l'industrie savent très bien que c'est là où il y a l'argent. Et c'est comme ça que moi, on m'en a parlé la première fois à WFM, quand j'ai dit ah, l'édition c'est quoi, ils m'ont dit c'est là où il y a l'argent. Et
c'est oui, mais c'est quoi?
C'est vrai que c'est un truc de fou. Et il y a une règle, hein, y a une règle en France, tu ne peux pas être éditeur si tu es diffuseur. Pourtant toutes les chaînes son éditeur.
Ça, on c'est grave, quand même.
Pourquoi ? Parce que c'est des multinationales et que c'est pas la même structure.
Ouais, donc c'est de la triche.
Parce
en
que
fait.
Du coup, pour expliquer quand même très pour vulgariser, parce que je suis comme la plupart des gens qui nous écoutent, à la base, j'y connais rien dans ce métier. Mais en gros, quand tes musiques passent sur des médias type radio, télé, bien en fait, ça fait tourner l'édition.
Ça fait des droits d'auteur.
Et ça fait des droits, ça fait des droits d'auteur. Donc en fait, ça
être réparti entre celui qui a vraiment composé et l'éditeur.
Et le label, s'il y a machin, ou si, tu vois, genre, selon le truc. Mais exactement, ça va générer de l'argent.
Parce que quand c'est diffusé à la radio, c'est à la fois le master et la compo qui génèrent de l'argent, c'est les deux, l'édition et la production.
Mais en fait, le droit master, le droit qui est généré à la radio, on appelle ça le droit voisin. Et c'est le droit voisin du droit d'auteur. Ça a été créé parce que les producteurs, ils étaient là en mode, oh, nous aussi, on veut notre droit d'auteur, ils ont créé ça. Ça représente, mais moins, et beaucoup moins depuis qu'il y a eu un scandale en Irlande il y a quelques années, il y a 3 ans. En gros, beaucoup, le droit master, le droit voisin, est peu commun dans le milieu anglo-saxon. Et en fait, la France taxait beaucoup les groupes anglais qui passaient, et les droits voisins n'étaient pas récoltés après par les groupes anglais. Donc ça revenait dans les sociétés de gestion des droits voisins.
Après, le réparti, ça
et en Irlande, il y a eu un procès, et on s'est fait taper sur les doigts, et il y a beaucoup moins d'argent depuis quelques années dans le droit master. Et le droit d'auteur, par contre, c'est un truc qui est vraiment globalisé dans le monde.
Mais tu vois, si tu disais que tu n'avais pas le droit d'être diffuseur et éditeur normalement, bah, ça semble assez évident. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es TF1, tu signes en édition des gens, puis tu fais tourner que tes gens, et donc tu génères de l'argent en fait, juste comme ça.
C'est les hits de l'été en vrai.
Star Academy, ces deux émissions sont produites par une des majors, bizarrement, et le catalogue est majoritairement de cette major. Voilà.
Oui, tu peux pas choisir n'importe quel morceau, évidemment.
Évidemment. La candidate de la Starac, on va lui proposer des choses qui sont signées en édition.
C'est pour ça qu'ils vendent Julien Clerc, putain. C'est pas parce qu'ils aiment Julien Clerc.
Non. Mais du coup voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc on dit que ça génère de l'argent, oui, mais en fait à qui, comment, et enfin ouais, comment ça peut réellement générer. Pour nous typiquement, on n'a pas de diffusion ni
c'est
rien.
C'est dur de rentrer dans le de péter le truc.
Nous on espère juste on a des groupes qui sont passés sur FIP, tu vois, qui ont eu des petits passages, et t'es en mode c'est cool, ça génère de l'argent, ça fait du droit d'auteur, édition, etc. Mais on n'a pas la main mise.
Mais j'imagine que dans l'édition aussi, tout comme un label, mais c'est encore plus valable, j'imagine, en édition, c'est on se constitue en fait un catalogue qui prend de la valeur au fil du temps, idéalement en espérant, parce que ça relève aussi de la synchro, par exemple, on a parlé de la diffusion en radio, etc. Mais si ça apparaît dans un jeu vidéo, dans une série, dans un machin, etc., là aussi, à nouveau, ça va générer de l'argent.
Mais attends, Ponce, mais dis-moi.
J'ai jamais. Mais en fait, moi, je ne sais pas user de mon influence pour ça. Je suis nul à chier. Genre, je sais que je pourrais contacter des studios et tout, mais.
Est-ce que tu veux dire que t'as les contacts? Ouais, tu sais, c'est une blague entre vous parce que y a.
En gros, je suis streamer de jeux vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, nous, nos collaborations commerciales sur Twitch, c'est en écrasante majorité des éditeurs de jeux vidéo qui viennent vers toi et qui disent tiens, contact, on sort ce jeu. Est-ce que tu vas être payé tant pour jouer 2 heures à ce jeu sur ta chaîne?
Ouais.
Grosso modo, c'est ça. Et donc, du coup, on a un rapport direct avec les studios et les éditeurs dans le jeu vidéo. Donc clairement,
tu pourrais pousser ton catalogue.
Je pourrais, mais je suis très nul pour ça. Mais oui, je pourrais effectivement pousser mon catalogue.
Il va te former,
JB. C'est genre JB dit putain, ça fait 20 fois je lui dis.
Mais tu sais que j'y pense là. Mais genre le dernier album de Endless Dive, tu sais que mec pour un anime, je rigole même pas.
Mais tu te souviens pas que Endless Dive, avant de sortir l'album, quand il y a eu les premières compos, ils avaient fait la demande en mode « Ah, on voudrait bien que ce soit sur un jeu vidéo. » Et ça a été composé un peu comme ça.
Mais tu sais que j'ai écouté ça dans le train en venant l'album pour la 10e fois. J'étais en mode « Mais ça se synchronise. » Moi, j'imaginais ça dans un animé.
Mais Endless Dive, pour la petite anecdote, à l'œil, j'ai réussi à caler. Moi, la synchro, on m'a toujours dit, c'est la cerise sur le gâteau. Tu peux pas faire ton modèle économique autour. Bon. C'est trop aléatoire, mais Endless Dive, on a calé une synchro. Enfin, j'ai calé une synchro, du coup, à l'époque, pour Vistaprint, pour
la
pub Monde. c'est un petit groupe de post-rock de tournée. On cale cette synchro, on a 29 000 balles.
Voilà.
Donc ça a pu faire l'album, ça a sauvé un peu le label aussi, qui commençait à connaître le Covid, et tout ça avec une synchro. Et vraiment, c'était un an et demi avant que ça se fasse, il y a ce brief qui passe, je postule, pas de nouvelles. Un moment, je pense, au bout d'un an, j'ai un appel américain. Je me souviens, c'était un 22 décembre, j'allais voir mes grands-parents là, au bord de l'autoroute et tout. Bref, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'appelle le gars, il me parle en anglais super speed. Oh, il me faut ça et tout. Je fais, est-ce que c'est une blague ou pas? Je le fais, je demande au groupe Les Stems et tout. Deux mois après, j'ai reçu un mail. Bon, bah, on vous vire l'argent comment?
C'est trop bizarre. C'est trop shady. C'est trop bizarre. Mais du coup, voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans des studios d'animation, jeux vidéo, ce que vous voulez, en vrai, on a des artistes de zinzin qui proposent des très bons sons.
Léo, tu voulais réagir?
Oui, j'allais dire, ouais, c'est ça, c'est un des enjeux, mais c'est ce que tu disais, c'est que, effectivement, la synchro, c'est un levier, mais effectivement, tu peux pas baser toute une stratégie là-dessus. Et puis, il y a dans le catalogue éditorial qu'on a aussi, il y a des droits sur les concerts aussi, évidemment. Donc, en fait, au plus t'as différents artistes, au plus effectivement t'as des droits qui sont générés, mais en tout cas c'est comme ça qu'on construit notre catalogue aussi, toujours dans le côté atypique. Et c'est vrai que quand t'as un brief, on a eu un brief là récemment par exemple pour une pub où une des références c'était Steph Dalisa ou des choses très,
quoi,
très... Steph Dalisa qui est un projet bon voilà très très précis on va dire, et un peu avec des textures un peu pop alternatives atypiques quoi. Et on s'est dit ah bah tiens là il y a un brief qui nous parle, c'est dans l'univers nous, hein. Quoi, ouais. C'est pour nous, ouais. Et c'est comme ça qu'on a envie de se placer, en tout cas, ouais, aussi dans les éditions. Ouais.
Les gars, et si on s'écoutait ce qu'on les a cité, la Endless Dive?
Alors, c'est une bête idée.
Ah, vas-y,
tu voulais. C'est sur le morceau. Allez, sur le morceau.
Intéressé d'avoir ton avis. Moi, j'ai vraiment
tout le
début.
De quoi?
Tu voulais réagir, c'est ça?
Non,
pardon.
Non, mais je voulais donner un morceau qu'on peut écouter, mais toi aussi, je pense.
Bah, moi, en fait, dès le début, je leur ai dit, moi, il y a un morceau de cet album que je trouve.
Si tu me dis Cabane.
Bah, ouais, aussi.
J'avais mis Deux Roues et Cabane de côté.
Cabane.
C'est la focus track de l'album, évidemment.
Et en vrai, Endless Dive, bon groupe. C'est, je trouve dans votre roster, incroyable. C'est parmi les trucs qui sont...
Ouais, bah incroyable. Moi je suis un fier manager depuis 5 ans de ce groupe, et en plus il y a eu plein de rebondissements ces derniers temps, et j'adore travailler avec eux, mais j'adore les projets que je manage de toute façon, mais c'est vrai qu'Endless Dive, je suis très content de travailler avec eux.
Musique instrumentale. Bouquet
les.
Allez, Cabane, Endless Dive. Bien ça, très bien.
C'est très chouette.
Il y avait cette question là qu'on avait évoquée au tout début, c'est sur les trucs auxquels vous attendiez pas. Léo, je suis sûr qu'il y a des trucs depuis ces 2 ans et demi avec Floral, t'avais beau connaître un peu le milieu et tout, tu t'es pris à des moments des trucs, ah ouais, c'est ça, ok.
Ouais, un des premiers peut-être constats auxquels je m'attendais pas, c'était l'importance tristement du sponsoring.
Ok.
Le fait de faire du marketing digital, où on s'est dit bah nous on n'a pas du tout envie d'en faire, et en fait on se rend compte que tout le monde en fait, et c'en est un stade où en fait aujourd'hui un clip qui a 2000 vues sur YouTube c'est pas bien, parce que tout le monde fait une mini sponsor pour arriver à 10 000.
Ok, donc sponsoring, ça veut dire que tu veux dire que les gens eux-mêmes qui ont uploadé du contenu par exemple sur internet payent à travers la plateforme pour qu'il y ait plus de vues.
Exactement, okay. Et en fait c'est un peu ça peut-être la prise de conscience en montant ce label, de se dire tout le monde triche, et
après c'est pas de la triche dans le sens où c'est
si
la plateforme le permet.
Est-ce que si tout le monde est dopé, c'est encore du dopage?
Non, mais exactement.
Il faut vraiment nuancer ça. Par exemple, tu sais, quand tu fais appel à une farm à clic, tu sais, ça c'est illégal par exemple.
Oui.
Par contre, de payer lorsque la plateforme te le permet. Spotify permet pas, par exemple, d'avoir des streams, tu vois. Tu peux pas générer des streams sur Spotify. Par contre, c'est vrai que sur YouTube, tu peux dire, bon, bah voilà, je veux que ça soit poussé, je mets de l'argent, ça va être montré à des gens plus, machin, etc.
Sur Spotify, tu peux faire une pub où quand tu t'ouvres ton appli, il y a un album qui est suggéré.
Ça, oui, bien sûr. Mais ça peut pas envoyer à des utilisateurs de l'écoute directe.
Ça donne pas une écoute.
Bien sûr. Mais on est d'accord, on est d'accord. Mais en fait, c'était ça, peut-être, le constat, c'était de se dire, nous qui étions dans cette vision très indé DIY, où on se disait sur Internet, il y a cette espèce d'illusion de l'égalité des chances où tout le monde, voilà.
C'est celui qui a plus d'argent qui peut pousser.
Voilà, vraiment. Et en fait, on a entendu des budgets de sponsoring et de marketing digital, mais colossaux.
C'est des dizaines de milliers d'euros sur une publication. Quoi.
C'est abusé.
C'est du coup pour générer vraiment, parce que du coup, ça fait vraiment des. Enfin, ça génère des vraies vues, c'est quantitativement.
Beaucoup moins d'engagement, beaucoup moins de likes, beaucoup moins de commentaires en général.
Oui, c'est-à-dire que tu as une vidéo avec 100 000 vues, mais il y a 2 commentaires.
Exactement.
Quasiment, ouais.
Ouais.
Ça, quand t'as les bonnes personnes qui savent bien faire ça, ça crée de l'organique. Bah, de toute façon, tous les gros artistes font du sponsoring. Oui. Si t'as des 50 000 likes, c'est qu'il y a je vais pas citer le groupe, mais pour un single, tu peux avoir 300 000 euros de budget sur du sponsoring. C'est normal. Ouais. C'est normal. C'est la base même. Pour les majors, c'est les budgets qui gèrent.
Voilà, c'est ça. Dis-le bien. C'est la réalité, c'est que tous les artistes énormes le font.
C'est-à-dire ils sont déjà
Taylor
gros.
Swift, je suis pas sûr, tu vois, mais
si.
C'est-à-dire ils sont déjà gros et en plus.
Bien sûr.
L'algorithme.
Il faut les écraser. C'est comme ça.
C'est ouf.
Et l'algorithme, de toute façon, en fait, puisqu'on a tous au plus de 30 ans ici, mais on a connu le début des réseaux sociaux, de la viralité, où vraiment il y avait une viralité, elle n'existe plus. Maintenant, tu fais un post, tu touches 5 à 10% de tes abonnés, c'est tout. Si tu veux toucher 50%, tu payes.
Il faut dire que c'est les plateformes,
qui font de la rétention, bien sûr.
Ouais.
Exactement.
Mais c'est le modèle économique des plateformes ne tient pas à la base. Et là, ils sont en train de se rapatrier sur ça. Et au point où maintenant, l'algorithme d'Instagram te casse s'il capte que tu dois vendre quelque chose. S'il capte que tu vends un produit, la musique en fait partie pour eux, l'algorithme va te casser pour que tu payes, en fait.
Ouais.
Et ça pose aussi des problèmes vraiment politiques actuellement depuis quelques mois, parce que ça veut dire qu'on finance vraiment une révolution fasciste.
Ouais.
Et ça, c'est un vrai problème.
Technofascisme. Mais pour le moment, on est vraiment dedans, quoi. Ça fait peur. Et je souligne vraiment, j'appuie sur ce que tu dis, c'est que nous, à la base, on était en mode jamais on met des thunes pour faire ça, ça va pas. Et en fait, tout le monde le fait. Du coup, t'es en mode. Mais du coup, si on le fait pas, déjà qu'on est petit, on est.
Ouais, en fait, t'es invisible, quoi.
Et ça fait chier, quoi.
Et c'est autant les immenses majors, les immenses artistes, que, en fait, même quand on fait des sessions, on écoute vos sons, où on a des groupes très, très, très émergents, eh ben, on se rend compte qu'il y a quand même eu 100 ou 200 euros pour pousser le clip. Et donc, ça devient normalisé. Donc, en fait, on s'est dit, nous, c'est bien qu'on soit outsider et qu'on essaye de faire en dehors des règles, mais si en fait tout le monde le fait, on se bat pas avec les mêmes armes.
C'est ça. Bah, d'ouf.
Et ça veut pas dire que c'est mal les gens qui mettent 100 euros ou quoi pour sponsoriser, c'est pas du tout ça, et tu le disais, ça peut être qualitatif, ça devient organique. C'est-à-dire que des gens s'abonnent, etc., etc. C'est pas ça le truc, c'est juste que pour le coup, l'égalité des chances, c'est zéro, c'est comme d'habitude, et donc ça renforce le système dans lequel on est déjà, où les plus gros sont les plus gros, resteront les plus gros et seront toujours plus gros, quoi.
Et on peut ajouter effectivement ce qu'on a évoqué rapidement tout à l'heure, à savoir que par contre il y a des pratiques illégales où tu payes un service extérieur qui va envoyer des faux comptes écoutés.
Mais en vrai c'est illégal. En fait c'est ça l'hypocrisie du truc.
Et certains l'ont fait, on le sait, ont été épinglés pour ça, y compris au sein de labels, des gros labels.
Beaucoup plus qu'on ne le pense.
Mais d'un autre côté en fait c'est juste la même chose mais externalisée.
Parce que c'est des fausses écoutes, ça devient pas de l'organique. Mais d'ailleurs
y a pas une vraie personne derrière
attendez, l'intérêt, vous parlez d'une plateforme qui gère la métrique. Ça se trouve en fait ils vous donnent un chiffre pour vous faire plaisir,
bien sûr. Mais le chiffre pour faire plaisir, il te fait passer devant les autres, mec. tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai
c'est ça, mais ça veut dire que en fait les 100 000 vues, ça se trouve, en réalité, il n'y avait que 15 000 viewers réels. Sauf que du coup, au niveau de l'algorithme, t'es compté comme 100 000, donc il te met dans la case des gens qui font vraiment 100 000 en touchant 100 000 réelles personnes.
En fait, je connais bien.
C'était le cas à un moment. Ouais. L'algorithme, le but de l'algorithme de toutes les plateformes, c'est de faire en sorte que tu restes sur la plateforme. Et donc, du coup, l'algorithme va recommander des trucs qui créent un engagement. Ouais. De faker l'engagement, ouais. Ça a été fait à balles, ça ne marche pas. Plus. Ouais. Ça ne marche plus parce que l'algorithme, bah, les gens, ils ne restaient pas. Ils se disaient, c'est quoi cette merde? Et ils partaient. Donc, l'algorithme, il est malin quand même. Même au point où même les plateformes ne savent plus comment marcher l'algorithme.
On parlait de votre l'exemple de l'artiste 2 millions de vues et qui ne remplit pas la cigale.
Lolo Zouai, ouais.
Ouais.
Donc, non, là, je crois que. Enfin, j'en sais rien.
Enfin, c'est un peu dur parce qu'elle est française en plus, je crois, d'origine. Mais
oui, mais elle a jamais réellement touché le territoire français.
Bah, non, elle cartonne à l'étranger.
En fait, donc, coup, mais elle remplit les salles à l'étranger.
Ça dépend. En fait, non, mais c'est ça qui est particulier avec Lolo Zouai. Mais il y a plein d'artistes comme ça aujourd'hui. C'est des artistes qui sont internationaux, c'est-à-dire que ça touche vraiment tout, mais un peu. Et donc, en fait, tu vois, genre Lolo Zouai en France, elle est pas très connue, mais en fait, elle est très connue de nulle part. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais au final, elle touche le monde.
C'est genre, t'as 8 de moyenne générale au bac, quand toute l'année t'avais 10, c'était quand même dans la merde. Quoi,
parce que c'est vraiment bien. C'est une artiste française, franco-algérienne, je crois.
Ah, j'ai peur de dire la merde.
En tout cas, elle est d'origine, elle est d'origine française.
Il y a un fact-checking qui est en train
de et c'est vraiment bien. Enfin, c'est vraiment une artiste. Je trouve dommage que les médias français en ont peu parlé. Ouais.
Lolo Zouai, elle est exceptionnelle.
Je me demande s'il n'y a pas aussi le fait que elle a passé beaucoup de temps à l'étranger, peut-être aux États-Unis. Je crois qu'elle a grandi aux États-Unis, donc en fait,
oui.
Elle a peut-être fait son public initial par là.
Tu as raison. Elle est américaine, d'origine franco-algérienne. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Et du coup, oui, elle s'est fait. Mais tu sais, même aux États-Unis, ce n'est pas une rosta.
Non, bah non, bien sûr.
C'est pas. Non, c'est juste, encore une fois, vraiment, elle touche le monde. Parce que quand je regardais sa tournée, elle faisait qu'une seule date en France. C'était du coup, effectivement, la Cigale à Paris. Mais je regardais la suite et j'étais en mode, mais ça n'a aucun sens. Genre, elle faisait une date dans des pays, mais aux quatre coins du monde.
Bien sûr.
Et voilà, tu vois. Donc, c'est des profils qui sont particuliers. Là on comparait avec Tip Stevens qui a rempli la Cigale, lui. Mais Tip Stevens, il a un public francophone, ouais. Voire même français, voire même Île-de-France. J'abuse,
mais c'est vrai.
Je te jure que c'est vrai. Donc ça joue forcément, tu vois. Ça joue forcément. Mais je sais pas si elle a acheté des vues, elle, j'en sais rien. Ouais,
si c'est la norme.
Qui m'amuse, c'est sur YouTube. Ça s'approche quand même un peu de l'achat de stream, entre guillemets. C'est qu'en fait, t'es en payroll, je crois, ils appellent ça. Et en gros, tu payes pour être. Si la personne laisse la vidéo se finir. Ben, ta vidéo passe après. Sauf que les gens, ils captent pas, en fait. Ils sont partis faire de la cuisine et tout. Et du coup, un des meilleurs moyens pour voir si t'as de la sponsor YouTube, t'as 100 000 vues, t'as 50 likes.
Mais c'est radical.
Le réseau où c'est le plus visible quand il y a de la sponsor. Et du coup, nous, sur YouTube, on n'en fait pas. Et la majorité de nos clips, c'est ça, ils ont entre 2, 5 000, 10 000, 20 000 pour les plus gros. Et c'est tout, on n'a pas des trucs, à part Floral.
À Floral, c'est 400 000. En même temps, on a mis 800 000 euros sur l'app. C'est purement organique et on est très content. J'avoue que je suis assez choqué que c'est le premier son qu'on avait sorti.
C'est vrai que c'est le premier morceau du label qui a dépassé le 1 million de streams cumulés sur toutes les plateformes. Donc c'est beau.
C'est fou.
Aurélien, donc on peut y arriver quand même.
C'est faisable. Pardon, mais c'est. Pendant que tu étais la parole là, Aurélien, toi, ce qui t'a surpris. Alors toi, t'as découvert encore plus de trucs, c'est sûr. Mais genre. Si tu retiens un truc où tu t'es dit putain ça se passe comme ça.
Alors déjà c'est un peu plus global, c'est la complexité du truc. C'est la complexité du truc. Je te jure que tu vois ce qui vient d'expliquer JB sur l'édition, c'est toujours pas très clair. J'ai quand même j'ai les bases, ça va, tu vois, mais c'est pas très clair. Il y a toujours des questions que je me pose sur des trucs etc. Donc en fait, c'est la complexité, c'est aussi le tissu gigantesque que représente l'industrie de la musique. Ça, j'avoue, je m'attendais pas à ce que ça soit ça, en fait, j'avoue.
Tu veux dire en termes de gens impliqués, d'acteurs, de.
Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, il y a le Mama Festival, qui est un festival pro qui a lieu à Paris tous les ans. Nous, on le fait tous les ans depuis qu'il y a le label. Et en fait, j'hallucine du monde que ça représente, du monde. Et en fait, et ça fait le pont avec la suite. Ça, je m'y attendais pas du tout. Et ça, je suis trop fan de ça. C'est qu'en fait, la réalité du monde de la musique, c'est pas Angèle, c'est pas Orelsan, c'est pas machin. Non, eux, c'est une infime minorité. Alors bon, ça, on s'en doute. Mais en fait, ça veut pas dire que la musique, elle existe pas ailleurs. Et surtout, ça veut pas dire qu'elle n'est pas professionnelle. En fait, le truc, c'est qu'il y a énormément de groupes qui ont, sur Spotify, pour citer, je sais pas, 500 auditeurs, auditrices mensuelles, 1000, 2000, j'en sais rien. Mais c'est des gens qui font des tournées, c'est des gens qui sont intermittents grâce à leur groupe, c'est des gens qui vivent de la musique et qui vont probablement continuer à vivre de leur musique si le statut d'intermittence est maintenu, je touche du bois. Et en fait, ça, je ne m'y attendais pas du tout. Et l'écrasante majorité du milieu musical du côté des artistes est composée de ces gens-là. Et c'est les gens avec qui on travaille chez Floral. Et en fait, ça ne veut pas dire que c'est de l'émergence. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a spécialement envie d'évoluer vers le fait de faire des salles de fous et tout. Il y a des gens, je pense à Célon notamment, même s'ils aimeraient bien évoluer en un sens. Mais en même temps, à côté de ça, quand ils vont jouer à Avignon, à la Souricière, un bar devant 60 personnes, et que c'est leur meilleur live de l'année, t'es en mode, sérieux, c'est ton meilleur, parce que t'as quand même fait... Et ils sont en mode, c'est mon meilleur live. Donc il y a cette réalité, et on en parlait tout à l'heure aussi des concerts, justement, ailleurs qu'à Paris et tout. Ouais. Et en fait, ça vit, ça bouge, et c'est professionnel. C'est leur métier à tous ces gens. Et ça, j'adore, et c'est pour ça que quand des fois sur mon chat Twitch je vois des gens me dire ouais mais moi j'habite à 200 km d'Auriac machin, il y a rien, et je suis non, en vrai il y a pas rien, en vrai il y a pas rien, et je le sais parce qu'en fait j'ai les mains dans le cambouis, je le remarque, il y a tellement de concerts de partout, et des concerts pas chers, des concerts gratuits, il y a tellement de choses. Et voilà, ça je m'y attendais pas, parce que ça, faut avoir vraiment mis la tête dans l'industrie de la musique pour se rendre compte de
ça. Parce que c'est pas comme ça qu'on communique cette industrie auprès du grand public, en fait, on ne parle que des grosses têtes.
Exactement, et en général, et moi le premier, quand je regardais Spotify, que je voyais 1850 auditeurs mensuels, tu vois, il y a 5 ans que je voyais ça, et j'étais en mode... Ok, c'est un petit groupe qui commence, machin. Mm. Mais que nenni, en fait. C'est des gens, ils jouent depuis 20 ans, c'est leur métier, et voilà, c'est tout, point. Il n'y a pas de feinte. Et ça, je m'y attendais pas, et c'est beau. C'est positif, c'est très positif.
Avant de te demander de poser la même question à JB, on s'écoute, ça a été cité Célon.
Bien sûr.
Allez, un morceau que vous avez envie d'écouter de Célon.
Il y en a beaucoup hein, que j'ai envie d'écouter.
Ouais,
un petit qui sait.
Qui sait, whatever.
Bah, whatever, ce qui est frustrant, c'est qu'il fait 7 minutes.
Oui, faisons qui sait, faisons qui sait, c'est très bien, c'est une bonne porte d'entrée dans Célon.
Il l'a mis de côté, allez, c'est parti. Qui sait, Célon.
L'attraction terrestre, quelque chose de céleste le soir. Je me demande s'il est possible, et si oui, depuis combien de temps la mort ne sait pas. Et autant ici à l'envers, à l'envie réunie, tu brilles dans l'univers. L'attraction terrestre, quelque chose de céleste le soir. Quelque chose s'élève dans le noir. Qui sait combien de fois m'a-t-on dit de ne pas, mais que j'aime lever les yeux vers le ciel. De ne pas, mais que j'aime lever les yeux vers le ciel.
J'arrête sur le petit pont là.
Magnifique. C'est à voir en concert, c'est long, hein, vraiment.
Ouais.
Ah ouais, c'est
live de fou.
En live, c'est exceptionnel. Je le dis vraiment, c'est exceptionnel.
Et c'est compris, pas parce que c'est votre groupe.
Non.
Y compris dans des trucs où c'est pas juste un bar de 60 personnes.
Y compris. Okay. Pour le coup, je les ai vus dans des grosses scènes et des petites scènes. Je les trouve exceptionnels. C'est des musiciens et des musiciennes de zinzin. Ils se donnent sur scène. C'est trop bien.
Toi, JB, donc, qui on l'a compris, encore une fois, vient un peu plus du monde de l'industrie musicale.
Là, il cherche les dossiers en se disant, bon, alors,
avec Floral, t'as dû quand même. Ça a pris une dimension différente, nouvelle pour toi. Qu'est-ce que tu as découvert qui t'a étonné alors que tu connaissais déjà pas mal de trucs?
Depuis tout à l'heure, je réfléchis et j'ai un peu de mal à trouver, mais je pense que il y a un côté. Après, j'ai cette personnalité, mais un peu cynique de ok, bon, c'est comme ça. Mais le truc où j'arrive pas encore à accepter, c'est à quel point la cooptation est la base de ce milieu. Moi, j'ai été assez renfermé, timide, tout ça. Et franchement, c'est un truc de fou. J'étais trop naïf en me disant « Ouais, en fait, ils sont fans de musique. Ils écoutent un truc, ils sont là en mode « C'est trop bien, je vais le faire jouer. Jamais ça se passe comme ça. » C'est « Ah ouais, c'est ton pote. Ouais, c'est que des potes. »
Du réseau, quoi.
Ouais, c'est ça. Et alors oui, on rigole du fait que je connais un peu de gens et tout, mais en soi, c'est abusé comment... ça se passe que comme ça. Et l'aspect prise de risque, curiosité n'existe quasiment plus. Ouais. Et même si c'est mes potes, des fois je suis là en mode non mais faut arrêter. Enfin, ça, moi c'est un des trucs, j'ai encore du mal à accepter. Et du coup je joue pas assez le jeu comme aurait parlé avec des éditeurs de jeux vidéo. J'ai des potes, j'aurais 40 000 fois pu les appeler pour forcer un peu, mais je le ferai pas.
On se fait une journée tous les deux.
Allez,
vas-y, appelle-le,
je te regarde. On se met à Mario Party, puis on fait des coups de fil. Mais ouais.
Et voilà, celui qui perd doit appeler la personne qui veut pas appeler.
C'est bon. Je trouve qu'il y a. Alors, à la fois, je comprends ce que tu dis dans le sens où parfois, c'est triste de dire que la musique ne parle, suffit pas elle-même, elle ne parle pas assez, alors qu'elle est, elle peut être de grande qualité, par exemple. Et en même temps, ce que je me dis que c'est le côté aventure humaine, c'est ce que recherchent beaucoup de gens dans la musique. Et tu, si tu le prends à l'échelle de l'industrie, pas de l'industrie cette fois, mais enfin si, de l'industrie aussi, mais des artistes en eux-mêmes, par exemple, il y a aussi ce principe. C'est-à-dire ouais. qu'on se rencontre, on fit ensemble, mais parce qu'on s'est croisé dans une soirée ou qu'on a un copain en commun, et il y a un côté aventure humaine autour de la musique. Et évidemment, tu rajoutes l'aspect financier parfois plus cynique à l'échelle de l'industrie et des structures. Mais en fait, il y a plein de structures qui fonctionnent comme ça aussi, à mon sens, parce que c'est aussi le côté, bah, vas-y, c'est aussi une aventure qu'on vit à plusieurs et qu'on peut partager, qu'on se refile des trucs. Et parce que si on a été amené à se rencontrer, c'est parce qu'en fait, on avait des points communs et des amours artistiques communs. Et ça crée des trucs comme ça aussi.
C'est très beau ce que tu dis, Salman.
C'est magnifique. Quand je dis ça, c'est je le reproche pas, c'est comme ça. Et c'est pas forcément une mauvaise chose tout le temps. C'est juste que, à cause de la précarité de ce milieu, ça devient un problème. Il n'y aurait pas cette précarité, il y aurait beaucoup plus cette prise de risque de « ok, on tente ». Mais ce n'est pas le cas. Et du coup, c'est que, c'est surtout sur le live hein, que je ressens ça, parce que de toute façon, dans le numérique, il n'y a plus de playlist haute que pour des trucs très mainstream. Spotify ont viré l'édito rock qui faisait le taf depuis des années. Et donc, il n'y a plus de playlist rock. Elles ont disparu du jour au lendemain, il y a un mois. On n'a pas eu un mail, rien, personne n'est au courant, c'est juste qu'on s'en est rendu compte. Et ça, c'est. Voilà. Il y a que. C'est encore un autre level. Mais dans le live, notamment les festivals, voilà, on est ce qu'on est. Hein. Je ne dis pas qu'on révolutionne tout, qu'on a des centaines de milliers de personnes qui nous suivent. Mais actuellement, nos groupes ne jouent pas en festival. Tip Stevens remplit une cigale, il n'y a pas un festival de moyenne jauge qui a joué le jeu. Parce que il est pas chez. Il est chez 3C, qui est quand même un tourneur un peu historique en France, mais qui n'est pas le tourneur lié à une grosse industrie. Et c'est un streamer. Et donc, du coup, ils sont là en mode c'est d'abord un streamer, pas un musicien. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'abord un musicien et avant d'être un streamer.
Donc, il y a le mépris que j'évoquais.
Oui, mais là, c'est vraiment le copinage. Parce que tu vois, ce truc de les festivals en France, il y a une map que tu m'avais montrée qui est passionnante où tu vois à qui appartiennent quels festivals.
Ah oui, ouais, j'ai montré celle-là aussi.
Et
ça a
bon,
trois trucs quoi.
Bah ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et donc en fait, ils font tourner leurs artistes. Point. Ouais. Terminé, fin du bail. Et du coup, toi, ils s'en foutent de toi. Mais ça, pour moi, c'est pas l'aspect copain, c'est l'aspect business.
C'est
pas
cooptation. La cooptation, pour moi, celle qui me gêne, c'est surtout le côté business. Okay. Même si des fois.
Dans cooptation, il y a toutes les lettres de copain en plus.
Bah ouais,
mais du coup, il y a des festivals, j'allais dire festivals, putain, heureusement je me suis rappelé. Il y a des festivals, par exemple les transmusicales ou ce genre de trucs, où
ils ont programmé ces longs, d'ailleurs, qu'on écoutait tout à l'heure, par exemple.
Oui, tout à fait.
C'est mon invité.
Merci Jean-Louis.
Merci. Jean-Louis représente vraiment ce travail de défrichage.
Pour le coup,
Mais qui se perd. Bon, voilà, au quart de tour, on a notre carte blanche, c'est pareil. Ils font complet depuis des années, c'est 5 jours, c'est 35 euros le pass, et ça se bat pour défendre cette accessibilité, et du coup, il n'y a pas de tête d'affiche. Et j'ai très hâte que tu découvres ce festival. Et franchement, ça existe encore, mais ça est en train de disparaître. Parce que si tu n'as pas eu 30 ans pour créer ton public,
c'est
économiquement pas viable. Et cette précarité est en train de poser problème, quoi.
Tu parles d'économie, on peut peut-être terminer l'émission là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que l'un des aspects positifs, par exemple, du lien que vous cherchez à entretenir avec la communauté aussi Twitch que tu peux avoir, Aurélien, de ton côté, c'est que vous êtes dans un exercice de transparence totale. C'est-à-dire qu'ils font des streams où ils disent « Bon bah voilà, cette année, on a rentré tant d'argent, voilà les postes de dépenses, voilà ce qu'on a pris, absolument tout.
Oui. »
Donc si les gens qui veulent vraiment connaître ça en détail, je les invite à chercher. Il y a même des VOD, des replays disponibles sur YouTube. Moi, j'ai chopé quelques infos d'ailleurs dans ces...
Mais ça, c'est un réflexe de survie, c'est pour éviter de se faire call-out sur Twitter, ça.
Ouais, c'est ça, ça me fait...
C'est pour éviter la sauce.
Par exemple, alors là, je les ai les infos, mais je vais vous laisser les développer, c'est... lorsqu'on est un jeune label comme vous, globalement, les sources de revenus, c'est quoi ?
Ah, c'est une bonne question, les cherches. Hein. C'est, ça, ça arrive.
C'est clairement, il y a plein de choses à explorer encore en termes de modèle économique. Mais en gros, ouais. Bon, en un, évidemment, pour nous, c'est la Ponce Corp. En deux, c'est les subventions publiques. Donc, quand même.
Donc Ponce Corp, on le rappelle juste, c'est le fait que toi, Ponce, tu génères de l'argent donc avec ton stream et ton activité professionnelle. Tu as une boîte c'est et cette ça. Boîte investit directement dans le label.
Exact, c'est exactement ça. Il y a littéralement une intégration fiscale, comme on appelle. Floral Record est en intégration fiscale avec Ponce Corp. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est la première source, comme tu le disais.
Oui, et d'ailleurs, je me permets de compléter aussi, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce live de transparence voilà, oui. avec les abonnés, parce que, indirectement, c'est les abonnements et les gens qui s'abonnent à la chaîne Twitch de Ponce qui, du coup, nous permettent de... Voilà.
Donc, en fait,
au-delà de s'abonner, c'est vos actionnaires, quoi.
Les gens qui consomment mon contenu sont des gens qui, quelque part, soutiennent le label. Donc, ouais, c'est un peu un dû qu'on leur doit aussi. Et puis, surtout... c'est trop intéressant de parler de ça. Mais vas-y, je te laisse terminer.
Ouais, on va revenir sur cette... donc évidemment, il voilà, y a cette partie-là. Il y a la partie subvention publique pour ce que ça tient pour le moment, puisque on parle quand même de grosses réductions là cette année. On a annoncé quasiment 200 millions d'économies dans la culture. Au niveau national, les régions, c'est pareil. Le département de l'Hérault, alors on n'a pas les chiffres, j'ai l'impression que ça bouge tout le temps, mais on ne sait pas si c'est passé de 5 millions à zéro ou finalement ils ont un peu rétro-pédalé, ils ont divisé par deux.
Mais à la base c'était ça.
Mais à la base c'était ça.
Je sais pas si vous vous rendez compte que quand même un directeur de département socialiste, ce n'est pas une vanne, a passé de 5 millions à 0 euros le budget de la culture de l'Hérault.
Socialiste du Parti Socialiste.
Oh, oui.
Mais qui est surpris.
Non mais
c'est traître un jour.
Mais vous rendez compte ou pas. C'est juste de 0 ouais. euros. Mais ça n'a aucun sens. Alors qu'il y a des SMAC. Par exemple, il y a une salle subventionnée à Saint-Jean-de-Védas à côté de Montpellier. Tu t'es dit, mais donc vous avez plus d'argent du département. Genre, ça n'a aucun sens. Bref, bon, il est remonté, il est revenu sur ces trucs.
Il y a plein de choses qui ont bougé, mais voilà.
Il a tenté.
Ouais. En termes de subvention publique, ça ne peut pas être de toute façon un modèle économique, puisque là, on va dans une direction où ça va être de réduction en réduction. Il y a tout un tas d'aides aussi, notamment avec l'ASP, qui sont censées être des aides automatiques pour les petites jauges, par exemple. Et je crois qu'ils ont besoin peut-être, je ne sais plus les chiffres exactement, mais en tout cas, voilà, c'était des subs qui étaient censés être validé et verrouillé, et qui maintenant on sait même pas si on a les budgets pour tenir 6 mois, quoi. Donc, ça va très très mal là en termes de subventions publiques.
C'est Rachida Dati.
Oui, c'est depuis que Rachida Dati.
Après, mais ça découle de tout.
C'est des choix.
C'est
que elle.
Alors, elle a fait quand même des coups que les autres ministres ne se permettaient pas. Notamment ghoster le syndicat, dire des trucs et complètement rétro-bédaler une heure après. Même une des premières conférences de presse qu'elle avait fait à Bourges, elle a rigolé en mode non, mais moi je reste pas, c'est Paris mon objectif. Enfin, t'es là, mais elle ne respecte pas du tout.
Tant le respect à Rachida Dati. Ça va toujours de pair.
Mais c'est vrai que oui, on en parlait, mais le SMA pour nous, donc le syndicat des musiques actuelles, font un énorme travail de terrain pour défendre nos droits, pour nous en tant que petit employeur d'artistes, et vraiment je pense que ça vaut le coup de les citer, de leur donner de la force. Et typiquement, il parlait avec Rachida Dati, qui s'est toujours présentée comme voulant être la ministre ouverte, toujours disponible pour parler dans son bureau. Évidemment, quand les budgets sont passés, il y a eu un énorme ghost de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, quoi. Donc, c'est grave, voilà. Mais bon, revenons-en aux sources de financement.
Subventions, alors, sachant que les subventions, de toute façon, on ne peut pas vivre que de la subvention. Non seulement tu dis que c'est pas un bon pari, entre guillemets, malheureusement, vu le contexte, mais en plus, de toute façon, il faut avoir au moins 50% de fonds propres en plus de la subvention.
Tout à fait.
Donc, forcément. Et d'ailleurs,
pourtant, on parlait aussi de styles musicaux largement subventionnés et qui ne vivent que grâce à ça, genre l'opéra, tous ces trucs-là.
Il y a beaucoup de subventions qui vont au major.
Les majors, oui, bien je pensais qu'ils allaient dire ça, parce que Universal et machin, ils prennent leur sub. Hein.
Bah oui, évidemment, oui.
Mais ça ne doit pas dépasser 50% de leur financement.
C'est bon.
Pour vous, c'est ce que vous aviez donné comme indication dans votre live, c'est à peu près 20% de vos revenus en 2024, les subventions.
Tout à fait, ouais. Après, c'est le merch. En fait, en tant que label, on est des vendeurs de textiles. Très, très, très concrètement.
Après, merch, il n'y a pas qu'au textile, quand même.
Dans ce que je présente là, je sais plus sur quel graphe tu te bases, mais effectivement, le textile est largement devant les vinyles et devant les CD. C'est vraiment...
Il n'y a pas des subventions du syndicat de la confection, pas
Mais il faut qu'on le crée, faisons ça. Donc ouais, effectivement, il y a ça. Et le streaming, pareil, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment ridicule. Je crois que c'est moins de 10%, c'est peut-être 5%.
Ce que j'avais, en gros, c'est 20% sub, 15% merch, 7% session concert, que vous distinguez d'ailleurs de la billetterie qui elle est à 4%. Ce serait quoi la différence, le distinguo entre session concert et billetterie?
Session concert, c'est quand on s'improvise tourneur et qu'on vend des groupes pour des concerts. Billetterie, c'est quand on organise le concert. Okay.
Donc 20% sub, 15% merch, 7% session concert, 4% billetterie. Et le stream, c'est 3,4% quoi, de vos revenus. Donc c'est, en fait, c'est pas un modèle économique, le streaming, pour la plupart des gens. D'ailleurs.
Ah non. Et c'est combien là de stream? Ça doit être 5 millions de streams à peu près.
Alors ça, c'était l'année 2024.
Oui, c'est sur l'année 2024.
Donc du coup, c'est à peu près 3,5 millions de streams.
3,5 millions de streams, ça représente
3,5%
du CA. Après, là, on parle en pourcentage, alors que dans ce pourcentage, il y a l'apport du coup de la Ponce Corp qui fait que du coup, oui, ça réduit. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre c'est ça.
Mais
ça
en live, on avait présenté le graphe aussi, la répartition camembert sans la part.
C'est
donc voilà, il y a les datas.
Mais proportionnellement, on y est à peu près, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais grosso modo, oui, le financement principal, c'est la Ponce Corp. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, un label de musique indépendant, il peut pas vivre s'il y a pas de l'argent extérieur.
Ça commencé directement dans l'intro. Tu disais de toute façon, s'il y avait pas l'apport de la boîte.
Impossible.
Vous perdez chaque année plus de 130 000 euros.
Ah, mais c'est, enfin, il n'y a pas de label de musique sans cet apport de la boîte. Je pense qu'aujourd'hui, tu as 0 euros, tu veux monter un label de musique. Enfin, il se passe pas grand chose, quoi. Enfin, tu fais du dire, ah oui, c'est cool. Comme même, tu sais, tu peux organiser des concerts, tu peux faire des choses, mais je veux dire.
Tu peux pas le structurer.
Ah non, tu peux. T'as pas de ressources humaines, tu t'as pas de budget à proposer pour des projets, il se passe rien. Et là, la seule raison de l'existence de ce label, c'est parce que, oui, je suis suivi par des gens, qu'ils me soutiennent, que j'ai des partenariats, on en parlait justement avec des marques de jeux vidéo, etc. Ce qui fait que, oui, on peut financer un label. Mais en vrai, s'il n'y a pas ça, c'est...
Et alors pour le futur?
Voilà, justement, j'allais dire, là, est-ce que est-ce que la solution ultime, ça ne serait pas d'hybrider, parce que j'ai bien compris que vous vouliez vraiment séparer l'activité que Ponce fait avec sa chaîne et l'activité d'un label de musique indépendant, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc d'hybridation pour vous permettre
c'est
de...
marrant qu'il parle de ça.
Oui,
bah non, mais c'est juste que
ça
fait plusieurs semaines, mois, qu'on parle de ça. En fait, nous, notre réflexion, c'est se dire où sont nos forces? On est tout petit, on n'a pas d'argent, où sont nos forces? En fait, nos forces, elles sont effectivement dans notre rapport avec Internet et notamment Twitch, et vraiment Twitch en particulier. Pour le coup, là, on parle pas de YouTube, de TikTok, ce que tu veux, on parle de Twitch. Je suis effectivement parfois approché par des gens qui viennent me voir en me disant ouais, on pourrait faire ça pour ça. Plein d'artistes sont venus me voir, des labels, etc. Et souvent, moi, je leur dis, mais en fait, le problème, c'est que c'est ce que vous me dites, ça ne veut rien dire. Genre, vous voulez que je fasse un truc, mais vous me dites pas ce que vous voulez faire. Et surtout, comment faire? La prod, ça coûte des thunes. Enfin, tout est compliqué. Sauf que moi, je m'en veux un peu de devoir répondre ça aux gens en leur disant hey, c'est pas possible, hey, qu'est-ce que vous voulez faire, hey, j'ai rien pour vous. Ça me saoule, parce qu'en fait la réalité, c'est que je serais censé pouvoir leur répondre par la positive, avoir quelque chose à proposer. Donc on réfléchit autour de ça depuis plusieurs semaines, et là on est sur un projet, mais je sais pas si trop on peut en parler parce que rien n'est fait, j'ai pas envie de vendre
le
truc, voilà, c'est ça. Si on peut en parler vite fait.
Peut-être sans forcément trop donner de détails, oui, voilà. Juste dire que on a envie de faire une émission c'est musique ça. Sur Twitch.
On veut faire une émission sur Twitch qui aurait pas lieu genre toutes les semaines, hein, c'est infaisable, mais voilà, une émission qui ferait venir des artistes, on les ferait jouer en concert et pas juste un petit morceau acoustique, on les ferait jouer en concert. Et on
avec du public potentiellement.
Avec du public potentiellement.
Taratata quoi, vous allez faire.
Ça fait partie des influences, bien sûr.
Moi, ça m'a bercé quand j'étais plus jeune. Je regardais fou le truc. Je voyais des artistes fit ensemble. J'étais en mode, mais quoi? J'adorais, tu vois. Donc oui, dans l'idée, un peu cette idée-là. Sauf que Taratata, c'est très autour des artistes qui viennent et on leur pose des questions. Nous aussi, évidemment. Mais il y aurait à côté de ça aussi des rubriques, des petites choses. On viendrait parler du milieu de la musique, justement, ce dont on parle depuis à peu près le début. Donc c'est ça le fameux pont dont tu parlais. Ce truc justement transversal dans l'idée, voilà, c'est une idée. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent financer ça, des marques ou quelqu'un, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Mais voilà, donc si nous, en fait, on a selon moi, on a ce devoir, alors j'abuse, mais.
En plus, il y a un push, excuse-moi, mais il y a un push de Twitch France, notamment, pour financer des trucs qui permettent de sortir du classique jeu vidéo, machin, etc. Je veux dire, ils font quelques efforts.
C'est ultra sporadique et très opaque aussi, d'ailleurs.
C'est un
C'est très opaque, sauf quand, par exemple, ça finance Game of Thrones.
Ah oui, ça... Non, mais par exemple, je sais que...
Par exemple.
Je vais pas citer des noms, mais je sais que il se dit que des artistes assez installés qui font un moment du Twitch, qui streament un moment, et pas d'ailleurs sur le long terme, en général, ça dure quelques mois, dans le genre, il y a eu une petite facilitation financière, ce genre de choses, tu vois. Par exemple, Twitch qui dit, allez, viens sur notre plateforme.
Non, là, je parle de Twitch France, qui est ce que c'est, c'est-à-dire c'est tout petit, en vrai.
Ouais, ils sont quatre.
Ils sont quatre, voilà. Mais je sais qu'à un moment donné, Isabelle, notamment, qui bosse chez Twitch France, cherchait aussi des projets un peu vanity pour mettre un peu d'oseille en tant que Twitch.
Oui, un message à Isabelle, moi.
Ouais, bah après, c'est des petits buts, tu vois, mais oui, voilà, ils disent on a une dizaine de milliers d'euros à claquer, voilà, on peut le faire dans ce projet là
globalement Amazon un peu pas fermé les vannes un peu globalement vis-à-vis de Twitch,
mais
et
Amazon
tout,
et Twitch ils se parlent pas en fait,
non,
le seul truc
trop,
c'est le Prime d'Amazon qui te
et
permet
encore,
de ouais,
et encore ils réduisent les avantages
à chaque fois, donc
j'avais l'image un peu où globalement il y avait un peu moins de fric mis dans Twitch, de manière, enfin Twitch, l'entité Twitch mettait un peu moins d'argent,
il y a pas de fric,
ouais,
il y a pas de fric de base
en fait,
c'est
un vrai
plateforme, quoi.
Ouais, c'est une vraie plateforme au sens Silicon Valley du terme, c'est-à-dire que le truc n'est pas rentable. Voilà, on vit dans une époque où des gens lancent des business qui en fait ne seront jamais rentables.
À qui le dis-tu?
Mais vous, non, mais parce que vous, il y a des gens qui achètent vos t-shirts, qui achètent vos vinyles, qui viennent au concert et qui potentiellement t'arrivent à l'équilibre, tu vois, une fois que t'as reach le truc.
Ouais, ouais.
De dire qu'une plateforme qui est utilisé par millions de viewers et toujours pas rentable,
ça ne sera jamais, ça ne sera jamais rentable, mais du coup cette idée transversale est intéressante, et pour nous c'est là où on est censé être fort, c'est là où on est censé être présent, c'est quand des gens de la musique quelconque viennent nous parler, qu'on puisse leur répondre par la positive ou par quelque chose d'intéressant, plutôt que d'être en mode trop tard. Donc ouais, voilà,
écoute, je pense que c'est un beau mot de la fin.
L'hybridation et la clé.
On vous souhaite de réussir ce projet, en tout cas, de cette émission, etc. Merci beaucoup, les gars, c'était hyper intéressant.
Merci infiniment. On aurait pu parler encore 9 heures, je pense.
Certainement.
Clairement.
C'est vrai. On a quand même une tradition dans ce podcast pour terminer à chaque fois, c'est les recommandations. Alors là, on est vachement nombreux.
Ouais. On va les laisser recommander.
À la limite, on peut faire ça, les laisser recommander. Chacun un morceau, soit un de vos classiques que vous adorez, soit un truc que vous avez découvert récemment. On s'écoute une minute environ. On blablabla. Pas trop autour, juste un truc que vous avez envie de faire découvrir aux gens. Vous avez une petite idée déjà ou
trois artistes de chez Floral.
Non, on va jouer le jeu et pas prendre des artistes de chez Floral.
Bien sûr.
De toute façon, nous, on invite de base les gens à aller écouter Floral Records. De toute façon, vous pouvez taper ça sur les plateformes.
Aller écouter
de streaming.
Sport aussi.
Mais oui, il y avait Sport.
Oui,
évidemment.
Évidemment.
Le premier single ouverture, voilà. C'est pas la reco.
En vrai, c'est,
c'est pas notre reco. Mais,
mais du coup, non, juste, je le dis parce que des fois, des gens se disent, ok, très cool le label, mais vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Juste, vous tapez Floral Records et on a des playlists édito où on présente un peu les artistes avec qui on travaille. Voilà, je précise, ça peut être intéressant. Et sinon, la reco qui commence.
JB, là, il cherchait son sur Spotify, là.
Ah, mais c'est dur, parce que...
Il faut faire des choix.
Moi, j'en ai une spontanée, si vous voulez, j'en ai une. Il y a une artiste qu'on a fait jouer à une floral party, donc bon, c'est un peu de la triche, mais elle n'est pas sur le label, qui s'appelle Maëvol.
Oui.
Et je pense que c'est vraiment... ça a été un coup de cœur de nous trois. J'ai découverte en live, c'était pour les auditions régionales du Printemps de Bourges l'année dernière. Okay. Et le morceau que j'adore, c'est Mode Chaton.
Mode Chaton, Maëvol, et joue avec AMC aussi.
Oui, AMC, tout à fait, ouais.
Allez, on s'écoute ça.
Allô ? Ah bon, tu m'appelles ? T'as besoin d'une meuf sur ton plateau ? Pour une sub ou pour ta crête ? Non, criez pas trop fort, ils savent plus où se mettre. Tu cas dégué à la télé, y'a plus de problème. Lance-flamme, rose pâle pour cramer l'armée d'une telle. Ça tabasse, ça harcèle en espérant pourvu qu'elle m'aime. Maintenant on rend les coups jusqu'à ce que tu dises aussi que c'est ça l'amour. C'est quoi là chez nous? C'est notre tour, on veut la belle et reine et de l'air des millénaires. Genre qui nous gère, t'as vu la gueule de la planète. Grand ménage, on va tout clean. En la matière, on a des skills. Enfin tout ça pour dire que ces vieux mecs déviants vont tous bientôt mourir. C'est plus qu'une question de temps. Du coup, je les vois comme des rampants. Discret, cruel et un peu chiant. Le monde avance, tes arguments. Chantons ensemble à l'unisson. Moi chaton, Maëvol, faut sauver le monde. Mais pas tout le monde. Mais pas tout le monde. Moi chaton, Maëvol, faut sauver le monde. T'es mignon, mais t'es trop con. Du coup, c'est non. Moi chaton, Maëvol.
faut sauver le monde, mais pas tout le monde, non, mais pas tout le monde, moi j'attends, maintenant faut sauver le monde, t'es mignon mais t'es trop con, du coup c'est non. Les gosses projettent pas, l'horizon a dégagé, ils ont capté qu'à ce rythme là y'en aurait pas assez.
Ouais, bon, je vois le délire UK, je comprends pourquoi ça te plaît.
Elle régale, hein.
Je pense que vous nous avez bien cerné, ouais, en termes de son.
Bah, du coup, j'aime bien les paradoxes et je vais recommander des gens que je connais en plus.
Ok, vas-y.
Bah ouais, c'est un groupe de Tours et en fait, ils ont créé un label autour d'eux et j'aime bien leur donner des petits coups de main et ils sont radicaux et j'aime bien cette radicalité. Vraiment, c'est des fans de musique. Avant tout, le business, ils s'en foutent, ils se tirent des balles dans le pied tout le temps. Okay. C'est un groupe, ils sont 7 sur scène.
Ils ont déjà fait tourner le cauchemar. Ouais,
voilà. Mais ils ont déjà passé des étapes. C'est Stuff Foxes.
Okay.
Donc les renards en paille. Et c'est Pretend to be a Dog que j'adore de leur dernier album. Leur dernier album est vraiment un bon cap qu'ils ont passé et je suis content de leur donner de la force parce que ouais, ils sont autonomes, ils ont créé leur label, ils essaient de s'autonomiser à balle et ils sont ultra radicaux dans les choix et ça j'aime bien.
Magnifique. Stuff Foxes, Pretend to be a Dog. J'imagine qu'à la suite, il y a un moment où ça pète.
Ouais. Tout le morceau est sous cette tension.
Ça se retient. Ça se retient.
Il faut aller l'écouter pour savoir si vraiment ça pète.
Très bien. Ah, ils sont malins et j'aime. Ils sont passionnés de musique. Enfin, vraiment, okay. Moi, ça m'a. Je les kiffe bien.
Stuff Foxes. Aurélien.
Alors, je vais pas étonner, entre guillemets, mais en même temps, on a beaucoup parlé d'elle, mais on ne l'a pas écoutée. Et je voulais mettre du Lolo's White, tant qu'à faire.
Très bien.
Du coup, moi, je serais chaud que tu mettes Caféine avec deux F.
Eh bien, Caféine avec deux F.
Merci. I'll turn you up, Caféine. Talk to you.
Check it on the floor, taking it slow. Wanna see that soda pop, pop, overflow. Check it on the floor, taking it slow. Wanna see that soda pop, pop, overflow.
Pull up, I don't wanna cuddle. Pour it up, I got us a bottle. Your body looking like a model. I'ma use you up, I'ma swallow.
Oh, yeah.
I see you working on your fitness. Gotta keep up.
Très bien.
Et en live, elle est trop forte aussi. Si vous pouvez aller la voir, mais le problème, c'est que vraiment, elle joue jamais en fait. Ouais, elle passe vraiment rarement. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas.
Aurélien, merci beaucoup. Ponce, Léo Lorvert, JB Goubard, je dis les noms de famille quand même cette fois, tu vois. Faut le dire.
Oui, c'est vrai, c'est bien. Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup pour l'invite.
Merci aussi, évidemment, à l'équipe de la bouclette. Écoute, tant mieux si ça vous a plu.
Ouais.
L'équipe de la bouclette, évidemment. Ouais. Flav, Sam, Iris.
Bien sûr.
Merci Daz. Merci Thoman aussi d'accompagner cette émission.
Merci Salman, Thoman.
Avec plaisir. J'imagine que vous avez déjà acheté des trucs chez Thoman, c'est obligé.
Alors, on dit pas le truc que vous avez dit avant qu'on commence l'émission.
Non, ça va. Okay. Je vous dis une fois qu'il y avait un truc que vous avez pas trouvé. Mais ça va.
En vrai, c'est le running gag. C'est-à-dire que bah, notre groupe avec Léo Sport, SPORE, genre, en vrai, quasiment toutes les semaines, bah, ça va être une commande chez Thoman, je crois. Hein. Parce que la moindre connerie, bah, là,
on joue demain. J'ai reçu un colis hier, voilà.
En vrai, Thoman, c'est un classique.
Bon, tu vois, il n'y a même pas besoin de faire de publicité.
C'est de l'organique.
C'est de l'organique. Il n'y a pas les sponsors, là.
C'est de l'organique.
Bon, quant à vous, merci de nous écouter, de nous regarder. Merci à vous aussi. On se retrouve dans 15 jours. Nouveau sujet, nouvel épisode, nouveaux invités. Ça sera forcément bien.
Je sais pas ce que c'est.